Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mesdames et messieurs, vous reconnaissez sûrement mes deux invités, prestigieux Eliox et Jérôme de la chaîne Nowtech. Comment allez-vous ?
Super bien.
Ben, très bien et un grand merci de nous inviter.
Ouais,
et
ça fait plaisir en période de confinement.
Voilà. Est-ce que ça vous fait votre sortie du mois ?
C'est la sortie
exactement.
Du mois, ouais.
Mais c'est l'avantage de cette émission, c'est qu'on voulait justement créer un truc qui soit vraiment en présentiel. Où voilà, on puisse vraiment avoir une bande passante, parce que mine de rien, les zooms et tout ça marche très bien, mais la bande passante en termes d'émotion, de feeling, tu vois, c'est quand même pas pareil. Hein.
Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure en discussion en off. En fait, un des trucs de cette période qu'on vit, nous qui sommes, on va dire, plus ou moins des geeks et ça ne nous dérange pas de rester devant des écrans, ben, on a appris qu'il y avait quand même des trucs vachement ouais. importants dehors des écrans et que ça nous manque.
Il y a des trucs pas mal, ouais, dans la vraie vie, finalement.
Premier confinement, moi je me disais, finalement, ça ne va pas changer ma vie.
Ouais.
J'adore rester chez moi, jouer aux jeux vidéo pendant 8 heures, mais... Il y a une différence entre savoir que tu peux pas le faire et pouvoir le faire
et
de sortir.
Obligé, ouais.
Et le faire consciemment, ouais.
Je pense que c'était bien 3 mois. 3 mois à l'origine, voilà, ça faisait une petite pause, mais voilà, c'est un
mais
peu
mais un pénible. An, ça commence
ah
à...
Non, c'est bien
ça
déjà.
Pique, hein,
ouais,
ça,
c'est bon, c'est... On arrête là.
Ça fatigue.
Bon, si vous connaissez pas mes chers invités, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ? Vous êtes tous les deux youtubeurs déjà.
C'est exactement.
C'est ce qu'on a tous les trois en commun finalement. De quoi est-ce que vous parlez chacun sur votre chaîne ?
Tu veux commencer ?
Non.
C'est moi.
C'est toi.
Alors, sur la chaîne, moi je fais de l'impression 3D, du bricolage, des projets, des tests. Mais voilà, ça tourne autour de l'impression 3D en général. Et j'essaye de donner aux gens un petit peu d'inspiration et un petit peu de, disons, matière à... je veux montrer que l'impression 3D, c'est pas uniquement pour imprimer des figurines qui ouais. prendront la poussière, mais vraiment
on
qu'on peut en faire quelque
que
chose
ça, ouais.
de chouette. Ouais.
La preuve, c'est que quand même, t'as réussi à faire de ce sujet qui peut paraître être un sujet de niche... T'as réussi à en faire toute une chaîne YouTube
oui, c'est vrai.
Avec bah, un certain nombre de vidéos quand même, donc t'es pas à court de sujet clairement, donc rien que pour ça c'est assez impressionnant.
Ouais.
Et toi Jérôme ?
Eh ben écoute, moi c'est YouTube mais aussi les lives, puisqu'on fait une matinale du lundi au vendredi tous les matins.
Ouais, c'est ce que tu me disais, c'est que ça fait 2 ans en fait. Moi,
3 ans même,
3 ans.
3, 4
moi,
ans
moi je suis un
même.
Bébé de Twitch par rapport à vous.
Mais nous on avait commencé avec Periscope qui vient de se casser la gueule, tu vois. On avait commencé nos lives avec Periscope, après on était en YouTube live et effectivement premier confinement on a débarqué sur Twitch. Ça faisait 1 an qu'on caressait l'idée mais ça a été vraiment l'occasion.
Okay.
Et que là on s'épanouit encore plus, on lance des nouvelles émissions live. Donc on partage on va dire de plus en plus notre temps entre vidéo et YouTube. Donc autour de la tech au sens large,
ouais.
Tech sociologie, tech smartphone, tech politique,
on
élargit un peu nos horizons.
C'est ça qui moi m'intéresse particulièrement avec ta chaîne, c'est que t'as un côté hardware, t'aimes bien présenter des nouveaux téléphones, donner des analyses qui vont peut-être un petit peu plus loin que simplement donner une fiche de caractéristiques, déjà ça qui est cool, mais tu vas aussi au-delà du hardware et potentiellement tu vas pouvoir traiter les sujets plus IT, qu'on aime surtout ici quand même. On aime tous le hardware, mais ici c'est quand même surtout la partie IT. Et donc tu vas poser des questions sur des sujets de société, sur des enjeux de vie privée, sur la législation. Enfin, tu vas souvent très loin dans les sujets. Parfois trop. C'est ce que j'aime particulièrement sur ta chaîne, c'est que t'as peut-être aussi, je sais pas si c'est un côté plus pro ou t'as plus d'expérience. Je veux pas.
Non, bah, tu peux y aller. Hein, je suis un vieux.
Bon, j'ai rien dit.
Ouais.
Mais c'est vrai que du coup, t'as un recul sur beaucoup de sujets.
Ça m'est arrivé de le dire. C'est vrai qu'entre guillemets, j'ai vécu plusieurs révolutions technologiques. Donc le côté c'est magique, ça va changer votre vie. On me l'a déjà fait à 20 ans, on me l'a fait à 30 ans, on me l'a fait, voilà. Donc ça donne un petit peu de recul et j'ai la chance de faire partie de la génération... c'est quoi déjà moi génération, c'est la génération X. X, ouais, génération Y. On va dire, on est la première génération... On n'est pas la première génération des jeux vidéo, mais on a fait des jeux vidéo tout notre temps. Donc, on a vraiment vu cette espèce de boom de la technologie. Et c'est ça qui me fascine, c'est de voir à quel point la technologie maintenant est rentré dans tous les aspects de notre vie personnelle et sociétale et politique.
Petite question indiscrète.
Ouais.
Est-ce que tu es capable de savoir dans tes audiences, c'est quoi l'âge moyen à peu près des gens qui te suivent?
Bah oui, on a des stats. Hein.
Ouais.
Est-ce que c'est fiable après?
Toi, tu sais à peu près.
Ouais, on est à 25-45 mois.
Ok.
Ouais. Bah, nous, on a effectivement, on va dire 25-30, c'est notre pointe. Par contre, par rapport à d'autres chaînes YouTube, on a une vraie chute en dessous de 17 ans. Ouais. Les plus jeunes ne regardent pas Pépé, quoi.
Non, mais ça, honnêtement, moi, c'est pareil. Mais je pense que c'est plus le côté tech que mon âge, je pense, qui n'est pas censé, qui est censé être compatible dans cette tranche d'âge. Mais je pense que le côté technique peut aussi effrayer peut-être les plus jeunes.
Est-ce que les comptes des gens de moins de 17 ans sont vraiment...
Là, on rentre dans le débat.
Ça, je suis pas sûr.
Il y a une chose qu'on sait, si je peux le dire, c'est qu'une grosse masse d'audience de YouTube a moins de 13 ans.
Et déjà,
Madame Michu a 13 ans sur YouTube. Ouais. C'est pas la ménagère de 50 ans, le gros des vues, mais YouTube n'a pas le droit de le dire. Et c'est un gros problème pour eux. Hein.
Parce qu'ils ne sont pas censés faire de l'argent avec ces
Et tu ne peux pas vendre à des annonceurs du moins de 13 ans. Parce que d'abord, les moins de 13 ans, ils n'ont pas une thune. Donc ça n'intéresse pas les annonceurs.
Bon. Après, ils ne sont pas obligés. Voilà, c'est pour ça que l'âge minimum, c'est 13 ans déjà. C'est qu'ils n'en sauront jamais rien. Voilà. Un bouchage d'oreille, c'est la technique
mais
de
Mais le problème, c'est qu'ils ont de plus en plus de mal à dissimuler que des grosses vues, des millions de vues se font avec les moins de 13 ans.
Là, je vois du monde là qui me dit qu'ils ont 13 ans, qu'ils ont un compte qui a 21 ans. Tu vois,
oui.
C'est la stratégie. Et ça permet de bypasser le moins 18. Aussi. Ouais.
Ouais.
Mais bon. On sait d'où ça vient. Je vous propose de vous faire un petit état des lieux des sujets divers et variés qu'on va pouvoir aborder. J'ai très envie de rentrer un petit peu dans le détail de comment toi t'es arrivé à la 3D, à l'électronique. Mm-hmm. Parce que moi j'avoue que ça c'est des sujets... C'est pas que je les maîtrise pas, c'est que vraiment je suis passé à côté, mais totalement quoi. Et pourtant, il y a plusieurs fois où j'ai des idées de vidéos, des concepts et tout, je me dis, si j'avais cette compétence-là, si je savais faire des trucs comme Hilux ou comme Ajax, je pourrais aller un cran plus loin dans certains concepts, notamment bon, l'impression 3D et le bricolage un peu, mais surtout l'électronique. Je me dis, l'électronique, surtout, c'est pas si loin de moi ce que je fais. C'est un petit peu plus bas niveau.
T'as
mais voilà.
un pied dedans déjà.
J'ai
t'as,
un
t'as
pied,
pas
ouais.
grand chose à faire de plus pour, tu vois.
Bah justement, on va pouvoir en discuter, voir comment toi, tu t'es formé et comment les gens qui nous écoutent peut-être peuvent apprendre.
Mm-hmm.
Parce que t'as ce côté-là aussi didactique et vulgarisation quoi, sur ta chaîne.
Ouais.
Et après, j'aimerais aussi qu'on parle tous les trois d'un truc qu'on a en commun, qui nous intéresse, c'est la monétisation sur YouTube.
Vous gagnez
non. Mais combien on gagne,
on gagne.
La moula.
Bienvenue à la télé. Non, mais c'est bien au-delà de la monétisation, c'est les modèles économiques de YouTube. Mm. C'est des sujets hyper intéressants. Et quel est l'avenir? Quelles sont les questions qu'on se pose chacun de notre côté? On parlait de s'entourer d'une équipe, d'embaucher des gens, etc. Voilà, sur les comme on n'a pas des sujets qui sont exactement les mêmes, mais on est dans une sphère. Vous faites pas de la télé-réalité like et moi du gaming, donc on a quand même des.
Ouais, on a des similitudes.
Je pense qu'on
a
plein de similitudes et on va pouvoir s'apprendre plein de trucs à mon avis. Est-ce que alors je viens de la sortir, donc vous l'aurez pas vu, je pense, mais dans le chat, dites-moi si vous avez pu jeter un œil à ma dernière vidéo. Par contre, je pense que Jérôme t'aura suivi le sujet dont elle parle.
Oui, c'est... en plus, t'en as parlé, toi.
T'en as déjà parlé.
Oui, on a parlé.
Ça m'étonne pas.
J'ai peur.
C'est... Ah, ok. Il y a plein de gens qui l'ont vu. Trop bien. Le sujet, c'était ce qui se passe chez Shadow.
Ah.
Et j'ai fait un petit format, 25 minutes quand même, un peu en mode documentaire, un petit peu enquête, où j'ai reçu JB Kemp, qui est l'actuel CTO et le président de l'association de VLC. Ainsi qu'Yanis, un des tout premiers employés. Et du coup, je les ai un petit peu questionnés sur qu'est-ce qu'ils sont en train de mijoter en ce moment.
Ouais, bah, on en a parlé. Et c'est passionnant.
C'est assez incroyable.
Ouais.
Bon, pour un petit récap, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la voir après l'émission. Bien entendu. Bien entendu. Mais pour ceux qui n'ont pas trop suivi, en gros.
Petite hache.
Oh, ouais, c'est ça, double screen. En gros, ce qui est en train de se passer, c'est que bon, Shadow est en redressement judiciaire.
Oui.
Ça, vous aviez vu. Tu connaissais déjà Shadow, la boîte à la base?
Ouais.
Bon, donc Shadow, c'est la fameuse entreprise de cloud computing qui était proche de la faillite. Et donc là, ils sont entrés en redressement judiciaire. On en avait très vite fait parler dans Underscore déjà. Et du coup, en ce moment, il y a ce qu'on appelle un peu c'est un appel à d'offres, quoi, en fait, où chacun doit présenter son programme pour récupérer les débris de la boîte et proposer la meilleure chose possible, quoi. C'est l'étape avant la liquidation pure et simple et qu'on mette tout à la poubelle.
C'est plus un reboot, hein. Ça permet. Ouais, c'est une manœuvre aussi, ouais, hein, de société.
C'est pour, en fait,
hein.
Fondamentalement, c'est pour éviter d'aller jusqu'à la liquidation.
Exactement. Quoi. C'est pour éviter, en fait, l'effondrement de la boîte. En fait.
Ouais. Et ouais. Du coup, il y a eu plusieurs offres. Je ne sais pas si tu as vu ce qui est passé.
Ouais.
Il y a Octave, c'est ça ?
Il y a une offre. En fait, il y a quatre offres, ouais. Mais on va dire qu'il y en a deux qui sont plus. Ouais. On sent que ça va surtout se jouer là. L'offre avec Iliad et des anciens, enfin des employés. De Shadow et l'offre d'OVH avec Octave.
Et voilà, et du coup, moi j'ai un peu disséqué tout ça et j'ai peut-être fait un historique du bordel interne que c'est depuis plusieurs mois où j'ai pu discuter avec des personnes d'entreprise, etc. Vous raconter tout ça dans les moindres détails pour les plus curieux. Mais je me suis dit, c'est un sujet, c'est dommage que nous on suit, on connaît la boîte, on connaît des employés, on sait ce qui se passe. Je me suis dit, c'est dommage que le grand public n'ait pas accès à cette histoire qui est incroyable. Parce que moi, ce que je disais au début de la vidéo, c'est que ça pourrait faire une série Netflix, en vrai.
Alors, si j'avais eu les moyens, il y a 4-5 ans, j'en avais parlé, parce que je suis vraiment Shadow depuis le départ. Ouais. Si j'avais eu les moyens, j'avais vraiment envie de faire un documentaire sur Shadow. Je sentais, avec la personnalité des gens qui l'ont fondé, comment ça se passait, etc., qu'il y avait une super histoire. Bon, j'avais pas les moyens, ouais. J'avais pas de quoi faire ça, mais j'aurais adoré.
Tu disais ça et tu prédisais même pas à quel point il y aurait des rebondissements.
Ah oui, ça aurait fait. Là, j'aurais pu faire le feuilleton sur 5 ans. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de documentaire sur plusieurs années. C'est toujours fascinant sur des gens que tu suis pendant plusieurs années. Moi, j'adore regarder ce genre de trucs, quoi.
De from 15 ans tout 50, l'histoire d'une vie, c'est trop bien. Mais ouais, effectivement, un truc comme ça sur Shadow était incroyable. Bon, à défaut d'avoir ça, du coup, je vais faire un petit peu une rétrospective. Donc, si vous voulez la voir, n'hésitez pas. C'est quoi vos petites actus, vos derniers projets des familles?
Qu'est-ce que tu imprimes?
Des Yoda.
Des Yoda.
Tu peux nous teaser des choses ou nous parler tout simplement des vidéos avant, si tu veux. T'es pas obligé de.
En fait,
teaser,
c'est compliqué parce que je suis en flux tendu aussi. Et du coup, dès que je termine une vidéo, je regarde ma liste et je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire?
Ouais, ok.
Et du coup, je pointe et je me dis, ok, je pars là-dessus.
Peut-être pas de ce côté-là où il y a de la profession.
Non, à mon avis, il y a beaucoup plus de préparation de ce côté-là que. Mais en même temps, entre je sais pas combien vous êtes chez vous et moi toute seule. Non, pas tant.
Justement, nous, on apprend à être beaucoup plus organisé.
D'accord. Moi, quand vous êtes à plusieurs, c'est quand même plus...
T'es obligé.
Que quand tu travailles tout seul, finalement.
Et puis moi, j'ai une personnalité très chaotique. Hein. Heureusement que j'ai MindNode qui me permet de...
On retrouve des choses assez communes quand même.
Ah ouais, oui,
il y a, moi il y a un bordel de cerveau.
Le bordel artistique, ouais.
Ça, c'est ta dernière vidéo où je crois que tu parlais de microcontrôleurs.
J'ai sorti une vidéo ce soir.
J'ai peur de faire une vidéo.
Mais
vous avez sorti une vidéo ce soir. Putain, j'ai trop les boules. Bon, moi, demain, 11h.
Je suis revenu toute la nuit. Là.
Mais ouais, c'est possible que là, je parle de microcontrôleur. Ça permet un peu de miniaturiser les projets et de faire quelque chose d'un peu plus professionnel et qui se la pète un peu. Quoi. Ouais.
Mais ça fait classe comme mot, microcontrôleur.
Ouais, un microcontrôleur, ça fait classe. Ouais.
Et toi, alors, j'ai vu ton dernier documentaire, c'était sur la santé connectée. J'ai trop adoré. J'ai trop adoré. J'ai kiffé. J'ai tout, quoi.
Alors, on va être honnête, elle a pas fait beaucoup de vues.
Allez la voir. Voilà,
L'algo YouTube n'a pas beaucoup aimé. Ça parle effectivement de santé connectée, de dictature sanitaire, mais pas du tout du côté conspirationniste. Ça partait d'un. C'est effectivement ce type de. Alors, vraiment, au plus petit, avec des bretelles, j'ose pas appeler ça un documentaire, parce qu'on n'a pas les moyens de faire des documentaires.
Je te contredis, c'est un documentaire et c'est du travail journalistique. Je suis désolé,
franchement. C'est vrai.
Allez le voir, dites-moi votre avis. Pour moi, tu n'as rien envie.
Non, alors, on continuera à faire des vidéos comme ça. Après, on ne peut pas vivre en faisant que des vidéos comme ça. C'est aussi le constat qu'on est en train de faire en ce moment. Il y a ce qu'on a envie de faire et puis après, ce qu'il faut faire pour survivre.
Il faut trouver un juste milieu entre tout ça, quoi.
J'en parlais tout à l'heure à Eliox. Nous, maintenant, notre truc, c'est stratégie Brad Pitt. Deux blockbusters, un film qu'on a envie de faire. Voilà. On est obligé pour survivre avec l'algo YouTube.
On me dit que tu as gagné un abonné.
Ah bah,
tant mieux.
Bah, voilà, j'ai bien fait de venir.
Voilà, c'est ça. T'as rentabilisé ta soirée déjà. Sur cette vidéo, bon, c'est un sujet hyper vaste, la santé connectée. Tu parles des objets connectés liés au tracking de métriques corporelles. Enfin, c'est un sujet hyper vaste. Mais est-ce que quand même, les gens pourront aller voir s'ils sont intéressés, mais est-ce qu'il y a 2-3 infos qui t'ont étonné en faisant tes recherches ou que tu as trouvé particulièrement intéressante avant de t'intéresser à ce vaste sujet?
Je me suis étonné moi-même. Je suis parti au début des objets connectés parce que mon Apple Watch me donne de plus en plus de trucs santé. Je bosse sur mon sommeil en ce moment. Et après, je suis vraiment rentré dans le travail du data.
Je pense que des personnes qui traitent des troubles du sommeil sur YouTube, je pense qu'il y avait, tu vois, il y avait que toi.
Il y avait que moi pour faire ça. Mais tu vois, j'ai eu aussi des gens proches de moi qui ont des maladies chroniques ou des choses comme ça, qui ont commencé à me sensibiliser sur le vrai aspect santé, pas juste. Ok, t'as rempli tes 3 ronds dans la journée. Mais ce qui est bien, hein, déjà dans l'absolu, mais il y a des gens dont maintenant la santé dépend aussi d'objets connectés. Et à partir de là, je suis rentré dans un monde que je connaissais pas du tout, le big data médical, et à quel point les enjeux sont énormes, et à quel point les dangers sont énormes aussi. Ça m'a fait rentrer, et du fait de Marion, qui est ma compagne qui travaille chez Alan, qui est une assurance bien santé sûr. Connectée. Ouais. Ça m'a aussi sensibilisé à tous ces aspects-là. Et bah, tu vois, quand toutes les pièces d'un truc commencent à se mettre en place, je dis, putain, je ferais bien une vidéo sur le sujet. Quoi. Ouais. Et Le Lion était une BD que j'avais lue quand j'étais petit, qui parlait, elle est hallucinante, cette BD, elle a été écrite dans les années 70.
Ah, si je me souviens bien, ça racontait une dictature de la santé.
Et en fait, c'est la dictature de la santé, et tu vois des mecs avec des choses qu'on vit aujourd'hui, et ça a été imaginé en 1970 par deux...
Okay. Hein, incroyable.
Et ça m'avait marqué quand j'étais petit, en me disant, je veux pas que les docteurs me disent comment je dois vivre. Voilà, tout ça, c'est lié, c'est ça qui donne une vidéo, c'est ça qui est cool quoi, ouais. dans les vidéos. Quoi.
Sur ce sujet-là, je m'étais un peu intéressé de loin, comme tout le monde, je pense, mais il y a un sujet particulier à l'intérieur qui m'avait interpellé, c'était cette histoire de... Alors, c'est pas vraiment de la santé, mais c'est quand même lié, c'est cette histoire d'ADN et d'essayer de retrouver à partir de ton ADN tes origines, machin. Il y a énormément de youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus.
Ouais.
Et déjà à l'époque, j'ai pas travaillé le sujet à outre mesure, mais je pressentais qu'il y avait un petit souci à pas mal d'endroits. C'est un truc que tu as pu...
De toute façon, on a tous vu Gattaca. Hein. En fait, tous ces trucs sont des
pas
progrès.
Allez le voir si vous voulez.
Allez voir, bienvenue à Gattaca. C'est un film qui résume bien les problèmes du génisme. La médecine, comme n'importe quelle technologie, et encore plus la médecine, c'est un couteau à double tranchant. Ça sauve des vies.
Pourquoi ces boîtes-là, elles sont devenues hyper populaires et elles se sont multipliées, les trucs de tests d'ADN et tout. Quel est l'intérêt
Attends,
pour elles?
Attends, il y a un big buzz là-dessus. Tous les youtubeurs ont... Ouais. Mais ça fait de la pub de ouf, en fait.
Et moi, j'ai reçu des emails de ces entreprises. Peut-être toi aussi, je ne sais pas.
Non, pas moi.
Mais t'en as reçu des emails d'entreprises qui faisaient ça et qui voulaient communiquer. Et il y a du monde sur le tech français aussi qui a pu en parler. Je suis même pas sûr que ce soit légal d'envoyer son ADN comme ça par la poste.
Je crois que ça dépend des infos qu'ils sont censés te donner.
Regardez, ouais. Je crois que c'était en tout cas un sujet vraiment compliqué. Quoi. J'avais pu discuter avec du monde de la CNIL et clairement c'était.
C'est très compliqué.
Clairement, c'est
après le succès, en fait, c'est des trucs, ça ne peut que marcher.
Ouais.
Les gens sont fascinés d'où ils viennent. Enfin, je veux dire, c'est comme les voyantes du Moyen-Âge ou d'essayer de prévoir...
Entendu, tu vas apprendre que tu es le fils de guerrier teuton du siècle. Tu vas dire, bon, bah cool.
Non, mais après, c'est aussi... c'est tout con, mais quand est-ce que je vais mourir? De quoi je vais mourir? C'est là où ça commence à devenir extrêmement dangereux.
Un peu creepy, ouais.
La prédictibilité des gènes, ce genre de choses.
Hein. Maladie en avance... Les questions que tu poses sont hyper intéressantes, notamment est-ce que plus on est capable de prédire ce genre de choses en avance, est-ce que peut-être ça va se retrouver sur notre CV, est-ce que tu auras de la sélection des employeurs sur ces critères-là, c'est flippant quand même ce genre
de... Mais c'est... Moi, l'exemple que je donne toujours, c'est que si tu dis à des invités que tu as à table, tu leur dis en fait, il faudrait quand même que les fumeurs et les alcoolos payent plus d'argent parce qu'ils coûtent plus cher. Là, tout le monde est d'accord. Puis après, tu leur dis, ouais, les gens qui dorment pas bien et qui font pas beaucoup de sport, il faudrait aussi qu'ils payent quand même plus cher. Et tu vois, petit à petit, tu commences à voir le truc qui peut déraper dans tous les sens. Et que là, tu arrives dans un monde super flippant.
Et là, ça devient flippant. Je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a des assurances d'automobiles qui ont fait un système avec une petite boîte noire dans ton véhicule. En gros, tu l'installes dans ton véhicule et ça va traquer ta conduite. Donc en gros, ils vont vérifier si tu as une conduite qui est dangereuse, safe. Qui est safe, etc. Et le deal, c'est que plus tu conduis de façon safe, moins tu payes ton assurance.
Ouais.
Ce qui peut pas être une
c'est une bonne idée.
Voilà, c'est une bonne idée. C'est logique finalement. C'est-à-dire que on récompense les personnes qui sont qui sont raisonnables et comme ça la route va être plus safe, etc. J'avais cette intuition là au début. Enfin, je me suis dit bon bah pourquoi pas, tu vois. Et en fait, après réflexion, tu te rends compte que en réalité, donner un bonus aux gens qui conduisent bien, c'est littéralement équivalent à mettre un malus aux gens qui conduisent mal.
Exactement.
Tu vois. Mais c'est fou à quel point genre le marketing peut te, te faire passer d'une vision à une autre, quoi. Et donc là, pour le coup, si je te le présente comme ça, non, mais en fait, on va donner un malus si tu as une accélération trop forte ou si tu n'es pas concentré ou que tu fais un gros
coup. Là, t'es contre.
Voilà. Et on va te donner une amende. Là, tout de suite, ouais. Tu trouves ça scandaleux, quoi. Enfin,
bon, c'est plus répandu. On a plus des malus aujourd'hui que des bonus si tu te conduis bien, quoi.
Heureusement, pour l'instant, c'est sur des faits avérés, quoi. C'est vrai. C'est quand t'as vraiment eu un accident. Oui. Je peux comprendre, tu vois. Si ça commence à être
sur le moindre fait et geste.
Voilà, sur
parce que là, tu parles de la conduite mais entier, ouais. si tu fais ça sur tout. En fait, tu vas te conduire comme ça et tu ne pourras plus rien
faire.
Est-ce que
tu fais bien ton sport?
Est-ce que tu
dors suffisamment d'heures par nuit?
Mais tu sais, on retombe finalement sur les problèmes de vie privée. Les gens qui disent « j'ai rien à cacher ». En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt de se dire ça. Parce que justement, c'est pas parce que tu n'as rien à cacher que personne n'a rien à cacher et que les libertés... Et dans la médecine, on le voit très bien. C'est effectivement, ils ont fait une étude qui était assez marrante sur des diabétiques récemment. Et, tu sais, les diabétiques doivent mesurer leur taux, l'envoyer à leur médecin pour un contrôle. Et ils ont vu jusqu'à quel point les gens acceptaient de... Et quand, par exemple, ils devaient partager avec leur médecin le contenu de leur assiette, les mecs ont dit non. Là, stop. Ok, j'ai une maladie chronique, machin. Mais ça, c'est une limite à pas franchir. Ouais. Je veux bien prendre mon taux de glucose, avoir un contrôle médical pour assurer ma santé. Mais il y a un moment, c'est chez moi. C'est, même si t'es médecin, t'as pas le droit de me dire exactement ce que je dois faire et m'imposer de manger des carottes tous les soirs, machin.
Apparemment, le truc de l'histoire du tracker sur voiture, c'est même directement intégré dans le téléphone maintenant. Et je l'envoie. Bon, je vous connais. Vous avez apparemment il y a moyen de le contourner, de tricher, etc.
On est en France.
Voilà, on est en France. On est sur ma chaîne, donc
c'est toujours un moyen de contourner.
Je suis moyennement étonné. Eh ben écoutez, je pense qu'on peut passer déjà au premier sujet. Alors, non, j'ai oublié, un call to action, je ne suis pas encore un bon Twitcher. Mais n'hésitez pas à vous... T'as vu, je suis obligé de me le noter. Sinon... N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch si vous appréciez ce type d'émission sur l'IT. Je me suis dit qu'on a eu deux... La dernière émission, on a parlé de hacking. Celle d'avant, on a parlé d'IA avec un data scientist. C'était deux trucs bien costauds. Ouais. Je me suis dit, on va faire un truc un petit peu plus chill. On va parler YouTube, on va parler tech, plus grand public, etc. Donc voilà, je me suis dit, ça fait plaisir. Et un autre truc que je me suis dit qu'il fallait mentionner, c'est que tu es la première fille qui passe sur Underscore.
Ouh.
Enfin. Non mais franchement, c'est quand même cool.
En même temps, c'est tellement des sujets tech que
ça correspond. C'est ce que je me suis dit, c'est que ça, là le ratio de filles sur cette émission correspond à la moyenne sur ma chaîne.
Donc c'est
même triste qu'on doive le dire et le remarquer, quoi.
C'est spécial.
Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé la chaîne, hein, finalement. Ouais. Je me suis dit, je vais peut-être donner envie à d'autres filles de se lancer en se disant, voilà, je vais montrer l'exemple. Mais en fait, non.
En fait,
ça marche pas.
En fait,
ça marche pas du tout.
T'es à 90-10 toujours.
Ouais, 95 même. Ça,
ouais, non, pareil.
C'est
toi, t'as...
Nous, on a 13%.
Ok. Waouh. Wow.
On
a aussi entre 11 et 13%. Mais on a aussi Marion, mine de rien, qui fait un live par semaine.
Ouais, comme tu vois.
Ouais, mais présentatrice, ça change pas grand chose.
C'est pas facile. Et c'est d'autant plus triste que dans d'autres pays, il y a un peu plus de. C'était de représentation. En France, il y a encore très...
Ouais. Hein?
Aux États-Unis ?
Non, mais c'est un grand, grand pays, donc...
Ouais, enfin, après, c'est des échelles de population. Je pense qu'en France, il y a quelque chose de culturel, quand même.
Ouais, tu penses.
Les ordi, c'est pour les garçons. Il y a encore peut-être. Dans l'éducatif.
En premier sujet de cette émission, je vous propose de voir un petit peu, avec, notamment avec toi. Je sais pas si t'as déjà touché à des imprimantes 3D.
Non, pas vraiment, non.
Et avant qu'on commence, vraiment, la partie... T'as une analyse vraiment assez journalistique sur tous ces sujets. Est-ce que, juste pour t'amuser, t'as déjà mis un tout petit peu les mains dans le cambouis ? T'as déjà fait un peu de... T'as pas fait du VBA quand t'étais étudiant ou des trucs comme ça, non ?
Non, mais en fait, c'est un peu par Corben que j'ai découvert l'émergence en fait, des imprimantes qui 3D. On était allé voir, quand on était au CES, on allait voir des imprimantes 3D. Mais c'est vrai que c'est ce que je te disais avant l'émission. Moi, j'avais une vision des figurines dans les boîtes de cornflakes, les Yoda en plastique pourri. Pour moi, l'impression 3D, c'était... Et c'est la chaîne de Liox où je me suis dit... Ah ouais, là, on commence à avoir des trucs qui...
Ah, c'est ta mission, c'est bon.
Ouais, des trucs que je pourrais mettre dans mon salon et qui me seraient utiles, quoi. Je comprenais pas l'utilité. Je comprenais le côté geek de faire des trucs, mais pour moi, je voyais pas l'intérêt pour moi, en fait. Okay. Maintenant, je commence à voir.
Oui. Ouais. T'es tombé comment là-dedans, en fait ?
C'est une longue histoire. En fait, je suis partie aux États-Unis et je suis partie pendant un an. Un mois là-bas, et je suis tombée sur des modules aimantés où on va pouvoir, faire des trucs avec des LED, des boutons, des machins. Et c'était vraiment destiné aux enfants. Et je me suis dit, c'est cool, c'est vraiment cool. Ça permet de toucher un peu au truc sans pour autant y connaître grand-chose. Et dans le module, il y avait un module Arduino. Donc, ils avaient fait un truc...
Ça me dit quelque chose. Attends, parce que j'ai fait deux CES, je crois.
Ouais.
Et je crois que je suis passé devant ce truc.
Ouais, c'est possible, ouais. Tu vois les trucs bien colorés où tu dois vraiment les assembler avec des aimants.
Ouais,
et quand tu appuies sur le bouton, t'as la LED. C'est vraiment tout bête, mais ça te permet de comprendre le principe de base de l'électronique. Et comme c'est destiné aux enfants, c'est d'autant plus accessible finalement.
Attends, à quelle occasion tu te retrouves au CES avant même
Mais même,
du coup,
même pas
à
CES en fait. Je suis partie à New York, je suis rentrée dans un magasin Microsoft et dedans il y avait un.
Ah oui, il y avait ça.
Il y avait ça. Du coup, je l'ai acheté et je me suis dit, ah, c'est bien. Et je me suis documentée sur l'Arduino.
Ouais.
J'ai fait un MOOC qui a duré plusieurs semaines et j'ai commencé à mettre vraiment les mains dans le cambouis du truc.
Alors Arduino, est-ce que tu... Je pense que ça commence à devenir assez grand public, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est ?
Arduino, c'est une carte qu'on va pouvoir programmer vraiment avec un langage assez classique qui est le C.
Okay.
Et qui va permettre d'activer des sorties et des entrées de cette carte. Donc on va pouvoir allumer des LED, dire ok, si j'appuie sur ce bouton-là, bah, je fais ci, avec des conditions simples finalement dans le langage de programmation. Donc je me suis documentée là-dessus, j'ai suivi tout un programme gratuit en ligne qui était organisé par une école à Paris, je peux dire École Gobelin, et qui était très très bien.
Okay.
Et suite à ça, en fait, c'était un mélange de papier et d'électronique. Et forcément, le papier, c'est très fragile, machin. On avait un petit devoir à la fin à faire. Et moi, j'avais fait un distributeur de croquettes pour mon chat, mais tout en papier.
Okay. Alors,
et autant dire que c'est pas viable.
C'est fou, ouais.
Ouais, ouais.
Et alors, et c'est à cette occasion-là, il y avait déjà du code.
Il y avait déjà du code, ouais, okay. On avait fait un truc. Enfin, moi, j'avais fait pour mon devoir de fin d'études, finalement. J'avais fait un truc connecté où j'appuyais sur le truc chez moi, enfin pas chez moi justement.
Ça déclenchait
le truc.
Alors je peux dire un truc vraiment, mais il y a une start-up française qui fait ça. Mais genre, tu vois, ton projet d'étudiant là, gens ils se sont assis autour d'une table, ils se sont dit, et si on se mettait à 20 et on en faisait un vrai produit où t'envoies des croquettes pour chaîne distance. Je dis ça à moitié rigolant parce que tu sais, c'est la start-up qui. Il y en a beaucoup, malheureusement, à la French Tech, hein, mais qui sont là tous les ans, c'est au CES, ils ne bougent pas.
Si tu veux me lancer sur le sujet, parce que j'adore aller dans les salons et de voir les pires stands et les pires produits. Il faut vraiment un jour que je fasse une vidéo là-dessus, parce que t'as des trucs tellement inutiles.
Ah, mais en fait, c'est pas contre eux, hein, mais quand même, t'as des beaux spécimens, quoi. Je pense qu'effectivement, un petit top des originalités, on va dire, qu'on peut trouver dans les stands de la French Tech, ça peut être intéressant. Pas que à la French Tech, il y en a plein d'autres.
Bon, après, il faudra le faire masquer, parce que sinon, on est grillé,
grillé
sans le marché, quoi.
Mais alors, du coup, c'est ta première expérience de développement, ça.
Exactement,
tu commences avec
du C. Ouais, exactement.
Bah, bravo.
Enfin, non, tu veux dire la première expérience de programmation tout court ?
Ouais.
Ah non, 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 ça date, ça date. Okay. Non, j'avais commencé à faire des sites internet en HTML quand j'avais 13 ans. Et du coup, première. Ouais. Okay.
Mais alors, t'as pas fait des études de dev, hein?
Eh ben non, même pas. J'ai voulu et ça a été un peu compliqué. J'ai commencé de manière très compliquée une école de commerce qui n'est pas du tout fait pour moi, en fait. Ouais. Et j'ai tenu 2 mois et voilà, j'ai arrêté suite à ça.
Et après, t'as hésité avec le dev ou te lancer en solo, c'est ce que tu
m'as raconté. J'ai toujours été passionnée d'informatique depuis très jeune et je pense que mes parents ont bien regretté le jour où ils m'ont acheté un ordinateur dans ma chambre. Enfin, ils m'ont mis le truc et je me souviens que ma mère, elle me disait au moins 17 fois « à table !»
C'était quoi ton premier ordi?
Ça devait être un Windows 98, un truc comme ça. Avec 4 gigas de disque dur.
C'est beau. Mais tu me disais notamment une anecdote qui m'a fait penser à moi, c'est qu'il te disait arrête de jouer.
Ouais, exactement. Arrête de jouer. Mais je ne joue pas, j'apprends quoi. Et puis c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est ça, exactement. Mais bon, c'était pas du tout. Et puis faire un métier il y a 15 ans d'ici en informatique, c'était pas du tout. Mais c'était un avenir, ma fille. Qu'est-ce que tu veux? Pas du tout, on va te mettre dans une école de commerce, il y en aura toujours dans la vie du commerce, donc on va te mettre là-bas. Et donc j'ai fait ça.
Ah si, ça va.
Ouais. Et oui.
Et du coup, donc là, c'est ta première expérience en développement, donc HTML, enfin ce que tu disais. Et là, un peu plus tard, tu utilises ça, tu utilises du C.
Ouais.
Et tu te lances là pour le coup dans la partie plus DIY,
électronique, en tout cas. Parce que l'électronique, c'est vrai que quand on en parle comme ça, on se dit ok, c'est un truc pour faire de l'électroménager. Jamais je pourrais faire un truc comme ça à la maison.
Il y a un côté, effectivement, il y a un côté très
pro, enfin usine ou je sais pas.
Il y a un côté produit fini. C'est-à-dire que chez toi, tu peux faire un petit peu de développement, tu peux coder un petit jeu, t'es gentil. Par contre, une carte électronique, alors là. Là, c'est industriel, quoi. C'est seulement si tu fais des téléphones. Mais en fait, non.
Ouais, tu peux vraiment expérimenter des trucs basiques et même c'est accessible pour les enfants. Il y a le C, donc normal que tu connais en ligne de code, mais il y a aussi la programmation en forme de blocs. Ouais. Donc, on va déplacer des blocs et ce sera très visuel.
Scratch.
Exactement. Et du coup, pour initier les enfants à se lancer dans, en tout cas, à apprendre un peu la logique de la programmation, je trouve que c'est vraiment parfait.
Et du coup, tu expérimentes avec ça, tu level up, j'imagine, en C et tout, parce que ça doit faire ça pique un peu honnêtement au début, surtout quand tu l'apprends pas dans un contexte universitaire où t'as pas le choix.
Okay. J'avais fait du PHP, j'avais fait des sites internet, donc j'avais déjà la logique de programmation, les conditions, etc.
Okay.
Après, c'est une autre syntaxe, donc il faut s'adapter. C'est pas des conditions, enfin, t'as vraiment des trucs physiques que tu dois actionner, donc c'est un peu différent finalement. Mais ouais, j'ai commencé là-dessus, et puis suite à mon projet d'études, de fin d'études avec le papier, je me suis dit je vais m'enseigner, je vais trouver autre chose, et je suis tombée sur l'impression 3D et je me suis dit nickel, c'est le duo parfait finalement entre les deux.
Parce que du coup pour finir sur la carte Arduino, tu prends ton programme, ton code en C, tu le compiles, tu l'envoies dessus.
Ouais, exactement.
Et derrière tu fais quoi avec ça en fait? Quelles sont les nouvelles portes? Moi, si tu dois me convaincre en tant que développeur, quelles sont les nouvelles portes qui s'ouvrent à moi?
Alors toi, en tant que Twitcher, je te dirais, dès qu'il y a quelqu'un qui met un commentaire, qui like ou qui s'abonne, tu vas avoir une loupiote qui va s'allumer ou peut-être un petit robot qui va s'actionner, qui va dire merci, enfin je sais pas, un truc comme ça, mais il y a moyen de faire des interactions.
J'ai trop envie de faire ça. Avec Gabin, par exemple. Surtout que on est en train d'avancer sur le look, etc. Mais on pourrait tellement faire des. Enfin, il pourrait être partout, en fait. Donc, je vais peut-être te demander des petits conseils, je pense.
Ok.
Et donc, toi, tu me dirais ça. Toi, personnellement, c'était quoi qui était tes premiers projets un peu
Arduino? Premier projet, alors, il faut savoir que moi, je n'ai pas une grande connaissance. J'apprends au fur et à mesure que je fais. Je suis totalement autodidacte et pour tout vous dire, mes connaissances, elles ne sont pas dans ma tête, elles sont sur Internet. Donc, il faut juste apprendre à apprendre.
Tout d'accord, je pense.
Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est arriver à avoir un but et puis ensuite à trouver les moyens d'y arriver.
Quand tu te lances, c'est quoi tes tout premiers projets?
Les tout premiers projets, c'était ça justement. Et finalement, suite à ça, j'ai lancé la chaîne très très rapidement et je me suis dit, tout ce que je vais apprendre, je vais le partager presque.
Après, en même temps que tu publiais du coup.
Donc en fait, tout ce qui est sur la chaîne, c'est finalement tout ce que j'ai pu faire à partir du moment où j'ai commencé.
Je pense que c'est ça que les gens ont bien aimé. Parce que, alors pour dire, tu viens de passer récemment les 290 000.
Ouais, c'est ça,
je
exactement.
Me trompe pas.
Ouais.
Bah, bravo, déjà.
Merci.
Bravo à
merci,
toi.
Merci.
N'hésitez pas à augmenter ce chiffre.
Oui, on arrive les 300 000 bientôt. Donc
bah, bien. Ouais, ce serait trop bien. Mais ouais, mine de rien, tu, intuitivement, ça peut paraître beaucoup de gens sur la thématique
ouais.
pure de l'impression 3D et de l'électronique.
C'est ça.
Je pense que ce qui a pu fonctionner, c'est justement que tu as. Bah, t'es entre guillemets, t'es normal. C'est-à-dire que t'apprends comme tout le monde et t'arrives à faire des trucs méga stylés quand même.
Merci.
Je pense que c'est ça qui a pu fonctionner. Attendez. I'm lost in translations.
Mais c'est vrai qu'il y a un truc que tu dis, je sais pas pour toi, mais je me reconnais carrément dedans. En fait, moi, je me suis un peu mis à faire des vidéos parce qu'on n'apprend jamais aussi bien que quand on partage ouais. tout de suite ce qu'on a appris.
C'est ça.
Et on vit quand même une époque complètement formidable où on peut apprendre n'importe quel métier avec YouTube. Et des trucs de pro, quoi. Moi, ouais. Je fais un peu de bricolage, machin. Maintenant, je sais faire des trucs, mais moi, je viens d'une époque où l'accès à cette connaissance-là
c'était
beaucoup plus
bibliothèque,
compliqué.
Librairie,
il fallait ou aller prendre ouais. des cours. Ouais.
Et
puis, tu avais une limitation géographique. Tu étais limité géographiquement et physiquement aux personnes autour de toi qui pouvaient t'apporter des connaissances.
C'est une réflexion que je m'étais faite, ce que tu viens de dire, c'est que et il y a même un truc qui fait que quand tu deviens trop compétent sur un sujet, on en parlait hier, quand tu deviens trop compétent sur un sujet, parfois, du coup, tu vas faire une moins bonne vidéo ou du moins bon contenu. Parce que
tu vas pas prendre la base de la base.
Exactement, il y a certains trucs où tu vas oublier que c'est pas évident. Moi, j'ai eu cette impression-là que j'arrive beaucoup mieux à faire une vidéo quand c'est un truc que je viens d'apprendre, soit je suis en plein dedans.
Ouais, ouais,
et
ouais.
du coup, tu mine de rien, le chemin vers la connaissance.
Tu partages l'excitation que tu as eue de comprendre toi-même aussi, le truc.
Et
c'est cette énergie que tu essaies de transmettre, en fait.
Ouais,
et
exact.
C'est ça qui est chouette. Ouais.
Deuxième sujet donc, que je voulais aborder, c'est je vais pas te mentir, c'est un truc dont vous parliez tout à l'heure. Je me suis dit, ouais. c'est intéressant. Tu parlais d'une anecdote, alors je sais pas d'où vient l'information, mais que potentiellement tu as eu vent de gros questionnements qui se passaient chez YouTube sur la partie monétisation, sur comment, sur la pérennité de la plateforme aussi. Je pense qu'on est tous assez dépendant de YouTube, un tout petit peu moins grâce à cette émission.
Ouais, Amen. Enfin, être dépendant de Amazon et YouTube, ouais, on est quand même très dépendant. On peut le dire, hein, on cultive notre potager dans le jardin du voisin, hein, quelque part. Hein.
Et donc, ça, on est tous d'accord là-dessus. Donc, tout ce qui est modèle économique de YouTube, avenir de YouTube, ça nous intéresse énormément. Mmh. Et donc, ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y avait des gros questionnements en ce moment sur l'argent que rapporte YouTube à Google, tout simplement, sur la monétisation, etc.
Moi, c'est parti d'une vidéo que j'ai faite, YouTube n'est pas gratuit. Et d'ailleurs, ça a été très marrant parce que YouTube a beaucoup caché ses chiffres, notamment combien YouTube coûtait. Et ça, c'est la question qu'on se pose jamais. On se dit, YouTube, vu le nombre de vues et tout ça, là, le YouTube monnaie. Mais personne, alors si quelques Américains quand même, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver des chiffres et je suis allé sur Reddit. Et les mecs sont obligés d'extrapoler de combien YouTube coûte. Ouais. Bande passante, frais de serveur. Le salariat, c'est peanuts hein, chez YouTube. Mmh. Mais la bande passante, c'est énorme, par exemple. C'est un truc qu'on ne pense jamais, c'est l'élasticité de la bande passante. Quand tout le monde se rue sur une vidéo, il faut que les tuyaux s'ouvrent très vite.
Et potentiellement se refermer juste après.
Exactement. Et j'ai appris, justement, j'ai appris beaucoup de choses en faisant cette vidéo. Et j'ai appris une info qui était un peu passée à l'as. Ça ne fait que depuis 2015, donc relativement récemment, que YouTube est rentable. Rentable, ça veut dire que ça te coûte zéro, mais ça te rapporte zéro. C'est-à-dire que tu as équilibré tes comptes. Ça veut dire de 2005 à 2015, pendant 10 ans,
c'était
YouTube a perdu de l'argent.
On avait de l'argent dans un,
voilà.
dans un trou sans fond. Quoi.
Et il y a... Alors, effectivement, il y a des rumeurs. Je continue à aller sur Reddit sur certains ouais. trucs que je partagerai pas parce que c'est mes trucs à moi, pour avoir des infos et puis aussi beaucoup de supputations. Voilà, j'adore les théories du complot sur ce sujet-là. On essaye d'extrapoler. YouTube a ajouté les pubs pour les vidéos de 8 minutes.
Par défaut. Franchement, ça c'est...
Ouais, mais tu sens bien qu'il y a une recherche de rentabilité et tu recherches pas une nouvelle rentabilité quand t'as pas un patron derrière. Mmh. Et elle a un patron, hein, la nana de YouTube, qui dit là c'est bien, mais c'est ça qu'on veut comme chiffre de revenus à la fin de l'année. On sent que l'algo...
La boss de YouTube s'est fait peut-être remonter.
Bah, tu sais, après, on va pas partir de l'économie, mais on va toujours te demander de faire plus et des meilleurs chiffres. Ouais. YouTube, le truc, c'est que c'est un colosse au pied d'argile. Ça coûte des milliards de diffuser toutes ces vidéos. Et c'est relativement fragile. Et ça rapporte pas des milliards quand, à la fin, tu fais les comptes. Donc, en termes de visibilité pour Google, c'est important. Ça leur permet de gagner de l'argent ailleurs, mais c'est un business qui, si jamais ça se cassait la gueule, et ils ont eu très peur quand les annonceurs se sont retirés, quand ils ont été dans la sauce à cause des pubs qui étaient... Voilà. Si les annonceurs coupent le robinet publicitaire...
Ça peut être vite,
YouTube, ça durera même pas 2 ans. Hein. En un an, c'est fermé. Ça coûte tellement d'argent tous les mois que si tu enlèves le revenu publicitaire de YouTube, ça s'effondre.
C'est marrant, ça.
Et
ça
les gens disent, impossible. Mais c'est impossible, oui, c'est trop gros. Ouais.
On se dit pas, je sais pas toi, mais moi je me lève pas tous les matins en me disant que potentiellement demain.
J'ai plus de travail, quoi.
Voilà, j'ai plus de travail, la boîte ferme, quoi.
Alors là-dessus, j'ai une anecdote. Vous avez vu le film 2001 Odyssée de l'espace, tourné il y a très très longtemps. Si vous regardez la station spatiale, il y a un logo dessus. C'est Panam. Panam, c'était une entreprise américaine des avions qui était tellement grosse qu'on disait, et tellement qui dominait le marché de l'aviation. On se disait, c'est une entreprise qui ne peut pas disparaître. En 3 ans, ils se sont complètement cassés la gueule. Maintenant, il y a encore des petits bouts de Panam qui résiduels.
Il y en a d'autres, des trucs comme ça, les Alcatel ou les appareils photo. Là, comme
bien sûr, bah, Kodak.
Ouais, Kodak.
Kodak. C'est même hyper stressant pour une entreprise, parce qu'une entreprise, c'est comme un empire. Les empires apparaissent et disparaissent. Si vous avez joué à Civilization, c'est très dur de maintenir un empire au top pendant très très longtemps.
Il y a un autre move qu'ils avaient fait aussi, c'était maintenant il y a un minimum, je crois, sur YouTube pour être monétisé.
Ouais. Ouais, tu vois, ils sont en train de toucher des petits trucs.
Mais là-dessus, ils continuent à mettre des pubs ou...
Oui, ben voilà, en dessous, ouais, en dessous, ils mettent des pubs, mais eux, ça te rapporte pas d'argent.
Habile.
Mais il ne faut pas oublier que YouTube, 97% des vidéos de YouTube ne leur rapportent pas un rond et leur coûtent à YouTube.
C'est ce que j'avais vu comme
stat. La grosse masse de YouTube ne leur rapporte rien et leur coûte énormément d'argent par rapport à la toute infime partie des vidéos qui rapportent de l'argent à YouTube.
C'est ce que j'avais vu, une statistique sur le nombre de vidéos par minute, ce qui était le nombre d'heures de vidéos uploadées par minute. Alors, il faut faire le lien en tête, mais c'est des chiffres qui sont
passantes,
colossaux.
Quoi.
Le nombre de vidéos qui ont 0 vues. D'ailleurs, il y a des gens qui font des concepts où ils regardent que des vidéos à 0 vues. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça doit être une fortune à.
Et justement, tu te dis logiquement, pourquoi YouTube, dans un objectif de rentabilité, supprime pas tous les petits youtubeurs pour se concentrer que sur ceux qui leur apportent du fric, quoi. Mais c'est qu'en fait, le problème, c'est que si YouTube fait ça, il devient un éditeur, avec les responsabilités d'un éditeur. YouTube, ce qui les protège, c'est une plateforme informatique informatisée.
Juridiquement, c'est quoi la différence, en fait?
C'est les responsabilités. C'est-à-dire que quand tu édites un journal, tu es responsable des articles qu'il y a dedans. Si tu as une chaîne de télé, tu as des responsabilités vis-à-vis de ce qui est diffusé. YouTube, Facebook, tous ces grands groupes ont eu le génie d'abord de faire du faux gratuit, mais ça, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais aussi de ne pas avoir de responsabilité par rapport à leur contenu, puisqu'ils étaient juste une plateforme.
Ce qui fait que demain, si tu fais une vidéo avec un appel à la haine et tout... Ils vont être, de ce que j'ai compris, ils sont quand même un peu responsables de l'enlever au bout d'un certain temps.
Mais ils sont pas, enfin c'est toi qui l'as fait, la vidéo, c'est pas eux.
Voilà, c'est ça. Mais bon, il y a quand même, d'ailleurs il y a eu plein de débats sur les histoires de loi contre la haine.
Position devient intenable. L'influence est telle d'un YouTube, d'un Facebook, d'un Twitter et tout ça dans nos vies que ça devient intenable. Et en fait, ça a été un peu le hold-up du siècle, tous ces réseaux sociaux et tout ça. Avec le faux gratuit et pas de responsabilité. Les États ont mis du temps en vieux colosse à se réveiller, à se dire « Oh là, attends, qu'est-ce qui se passe ?» Mais les États ont encore des choses à dire. Et voilà.
Mais si le YouTube faisait ce que tu disais, parce que c'est vrai qu'on ne pense même pas que ce serait possible, tu vois, mais si YouTube demain disait « En fait, tous ceux qui ont moins de 100 000 abonnés, c'est ciao. C'est-à-dire que vous n'êtes plus bienvenus sur notre plateforme. S'ils faisaient ça, ils devraient effectivement monitorer tout ce qui se passe partout, quoi. Donc ouais, ça n'arrivera jamais, en fait.
Ils peuvent faire les choses de manière beaucoup plus subtile. Bien sûr qu'ils ne vont pas débarquer en disant « Bon, allez, tous ceux qui font moins de ça de vue, vous dégagez. » Parce que là, je ne te dis pas le bad buzz, ah, c'est fini, machin. Non, ils font ça par petites touches subtiles. Qui sait, peut-être dans 2-3 ans, on me dira « Vous aimez telle chaîne ? Bon, c'est une petite chaîne. Il faut que vous preniez un premium pour la regarder. »
Un voilà. Petit euro pour accéder à la
chaîne. Si vous
ne payez
pas le premium, vous ne pourrez pas accéder à ces trucs. Mais elles sont toujours bienvenues chez nous parce qu'on encourage la création et les produits originaux. Par contre, il faut payer pour la bande passante, Coco. Par contre, si tu veux regarder la dernière prank dégustation en slip, là, c'est bon, c'est gratuit. Bon, on t'a mis 5...
voilà. Laissez le feu de partir, quoi.
Après, il ne faut pas avoir peur plus que ça. En fait, YouTube est juste en train de reconstruire l'aventure de la télévision. Tu regardes l'ORTF, la télé des années 50, avec des sponsors de partout. On balançait des vachettes sur des gens.
Oui, c'est vrai.
Finalement, tu retrouves les vidéos
on dit,
aujourd'hui.
On nous dit de go sur Dailymotion.
Hein ?
On nous dit de go sur Dailymotion.
Oui. Oui.
Vous voulez vraiment qu'on parle de Dailymotion ?
Vraiment. Mine de rien, ces histoires de monétisation, etc., ça a un impact direct sur nous, parce que c'est mine de rien, YouTube a créé une ribambelle de sensu accroché à son business model. Est-ce que vous, je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans les détails perso, etc., mais vous dépendez énormément de YouTube en tant que tel pour pouvoir continuer, etc.
Bah, moi, c'est mon travail, donc oui.
Non, ce que je veux dire, c'est que... Pardon, je reformule mieux. Est-ce que vous dépendez beaucoup de la partie vraiment publicité sur YouTube ? Est-ce
publicité.
Que demain, si le YouTube décide d'arrêter les pubs...
Par rapport à des sponsors ou...
Voilà, ouais. C'est ça, par rapport à d'autres modèles économiques.
Non, je pense que ce qui est le mieux, c'est d'essayer d'avoir des revenus d'un peu partout.
Ouais.
Il y a la partie où il y a des gens qui donnent pour soutenir, il y a la partie sponsor, il y a la partie affiliation, et puis il y a la partie aussi pub. Et je pense qu'il vaut mieux avoir un petit peu partout que vraiment se concentrer sur l'un au cas où.
Ouais. C'est ça que je trouve intéressant aussi avec, avec ta chaîne et ton modèle, ce qu'il y a derrière. C'est que toi, t'as fait des paris, mine de rien. Notamment sur la qualité, parce que ça met du temps de produire des émissions
des
bien
images,
produites,
ouais.
Des belles images, des émissions écrites, etc. Tu prends le risque, mine de rien, de prendre ce temps. Et du coup, mine de rien, ça fait que, on a vu ce que tu nous disais, tu as une audience qui est peut-être un peu plus âgée que beaucoup d'autres youtubeurs. Comment toi tu... Parce que, mais du coup tu vas peut-être avoir moins de vues potentiellement que si tu faisais des... Si le lendemain de la sortie de l'iPhone t'étais au taquet comme tout le monde.
Ouais.
Comment tu gères tout ça ?
Difficilement. Non. Il y a plusieurs choses d'ailleurs, sans faire le vieux con. C'est vrai que moi j'ai eu une carrière avant. Donc quand je suis arrivé sur YouTube, et même parce que j'ai un peu commencé en 2008, on avait monté No Watch avant Nowtech. Enfin bon, je vais pas refaire tout l'historique, mais... moi, je suis pas arrivé pour faire une carrière. Je voulais surtout faire un truc que j'avais envie de faire depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai vu Wayne's World, ma télé dans mon salon et mon média à moi avec des potes. Voilà, c'était ça qui me fascinait le plus. Et même, je vais te dire, d'un point de vue monétaire, j'ai gagné beaucoup plus d'argent dans ma vie à d'autres moments en travaillant beaucoup moins. Donc, c'est absolument pas un choix raisonnable de ma part. C'est même un pari un peu fou. Et je suis pas à la recherche non plus d'un succès. Ouais. Donc, ça aide à faire des compromis.
De ce que j'ai compris, t'es pas non plus tout seul à bosser sur ta chaîne. Donc,
alors, ça,
quelle est cette magie ?
En fait, le truc, c'est que déjà, moi, quand je me suis lancé, je voulais pas faire Jérôme Tech. Mais le fait est, c'est que j'étais le seul assez fou pour faire des vidéos au début et surtout pour accepter de faire des vidéos qui me rapportaient pas un copec. Parce que pendant 4 ans, je me suis autofinancé. Ouais. La chaîne ne me rapportait rien du tout. Mais je voulais faire un truc collégial. Donc je suis très content aujourd'hui qu'on commence à avoir les moyens. Mais c'est vrai que tout l'argent, je le réinvestis du coup
tu
là-dedans.
Réinjecte, ouais. Voilà. Mais je remarque notamment que tu fonctionnes un peu avec le pas le financement participatif, mais les tips, etc. J'ai l'impression que t'as un contenu qui est aussi, entre guillemets, parfait pour ça, parce que je sens, je sais pas si tu nous le diras jamais, mais t'as quand même une grosse base de fans hardcore, quoi. avec des gens qui sont vraiment, alors, vraiment au taquet.
Plus qu'on va pas dire les sommes parce qu'on n'est pas à la télé, hein.
Combien vous gagnez tout de suite?
Mais on peut parler de pourcentage de chiffre d'affaires. Ouais. Très honnêtement, les contributeurs ne représentent plus maintenant un énorme pourcentage du chiffre d'affaires. Okay. Mais par contre, ça nous donne une ligne édito. On travaille d'abord pour une communauté et ensuite pour l'audience. Tu vois, c'est juste une façon de voir les choses différemment. Une chaîne YouTube, il faut qu'elle choisisse. Soit tu joues le YouTube game, tu joues l'algo et tu vas tout faire pour l'audience. Soit tu joues, je veux construire une communauté. Ça va prendre plus de temps.
Tu crois pas en un mix de... Tu penses que c'est impossible?
Si, parce que tu peux pas construire une communauté sans audience. Mais c'est une question de priorité. Et on en parlait tout à l'heure, faire une vidéo pour la communauté, une pour l'audience, voilà. Il faut trouver des équilibres comme ça. Et un truc qui, moi, je trouve, est beaucoup oublié par des jeunes YouTubeurs, que je trouve malheureux aujourd'hui, il faut faire des vidéos pour toi. Et c'est vrai qu'il y a ce phénomène de prison. Tu commences avec un certain type de vidéo, mais demain, si toi, l'impression 3D, t'en as plus rien à foutre.
J'ai déjà essayé, c'est vrai que je me fais taper dessus. Mais tu t'en fous.
Il faut. Et il y a des exemples quand même de mecs qui ont réussi à changer complètement leur contenu. Courageux.
C'est le Rire Jaune, non, qui vient de faire une transition en anglais. Alors ça, franchement, c'est de la...
J'ai
pas suivi, mais...
En gros, tu me dis si je me trompe, mais je crois que le Rire Jaune, il passe en anglais, quoi.
Bah, il a fait un teaser de... C'est ça, hein, que t'as vu. Mais, ouais, mais après, il a fait autre chose.
Bah, je crois qu'après, la vidéo qui a suivi, ouais, c'était une vidéo en anglais.
Mais d'accord. C'est sur le même type de contenu, mais en anglais.
Ouais, je crois que c'était un dessin animé, un truc comme ça. Mais je trouve ça, mais respect à lui, parce que vraiment, les...
Comme PewDiePie qui a décidé d'arrêter ce qui avait fait son succès, quoi. Et il a pris un tournant. C'est dur, tu perds du monde.
Tu fais ce que tu veux, quoi.
Et puis, c'est là où tu t'aperçois aussi que notre communauté, qui est bienveillante et qui nous soutient, elle peut être aussi... C'est un équilibre à trouver.
C'est pas forcément les mêmes aussi qui vont être les plus entendus à différents moments. Quoi.
Mais parfois, il faut prendre des décisions sans écouter ta communauté aussi. Hein.
C'est vrai.
Et pas forcément ce qu'ils veulent, mais ce que toi, t'as envie aussi.
C'est clair. Parfois, vous avez des bonnes idées. Parfois... Il faut dire. Toi, je sais que du coup, tu bosses avec mine de rien avec quelques autres personnes. On en parlera après. Pour arriver à un tel niveau de professionnalisme, est-ce que toi, ça t'est déjà passé par la tête de te faire aider
Surtout, de plus en plus, parce que ça prend un temps de fou et puis faut tout faire, faut s'occuper de la compta, faut s'occuper des idées, de fabriquer les idées, d'expliquer les idées. Enfin, ça prend un temps de fou, mais c'est tellement difficile de donner une partie de son travail quand on est un petit peu carré, et puis quand moi je travaille la nuit, je travaille chez moi, je peux me lever à 3h du matin parce que là maintenant j'ai une idée et je veux la faire maintenant tout de suite. C'est compliqué aussi d'allier les deux dans le domaine, en tout cas dans lequel je suis, dans la création, les horaires, tout ça, c'est un peu compliqué.
C'est sûr, quoi, les employés de leur dire bon, alors bienvenue. Les horaires, ce sera.
Voilà.
C'est quand je t'appelle, 3h du matin.
15h, 3h.
Et puis il faut avoir des gens de confiance aussi, il faut les trouver, quoi. Ça, c'est une partie.
Tu m'as dit que tu faisais même le montage encore toi-même.
Ouais, mais je fais tout en fait. Il n'y a personne d'autre sur la chaîne, je suis vraiment toute seule.
C'est quand même fort. Toi, de ce que j'ai vu dans ton équipe, surtout, il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà si vous suivez le YouTube Game FR, mais qui est là de plus en plus, c'est Guillaume. Guillaume de la chaîne Guillaume Slash. Il va venir dans l'équipe à un moment là, non ?
En fait, Guillaume, lui, il a arrêté sa chaîne parce que justement, faire des vidéos, ça représente finalement une partie assez... Enfin, c'est pas notre principal boulot en termes de temps. Tout le reste qu'il y a autour, surtout en énergie, on va peut-être pas dire forcément en temps, mais on oublie que la gestion d'une chaîne, et moi aussi, hein, je pensais pas que j'allais passer autant de temps à trouver des sponsors, gérer les trucs, répondre à la communauté.
Il y a plein de choses qui se cachent dans tous les recours.
Et si j'avais su, j'aurais pas venu, hein, je le dis honnêtement. Si j'avais su que c'était vraiment ça, je crois pas que je l'aurais fait, pour être tout à fait honnête. Ça m'éclate, hein, mais je pensais pas.
En fait, on sait pas dans quoi on s'embarque quand on commence.
Heureusement.
Je pense que si on avait... on sait pas
Et Guillaume en était arrivé à un point où il trouvait plus son équilibre. Et puis une forme de burn-out aussi, hein, qu'on commence à voir de plus en plus chez certains youtubeurs. On a beaucoup discuté et moi qui avais commencé à outsourcer, parce qu'on pas dire ça, ça fait anglais, ça fait ouais. moderne. Notamment,
ça fait la main fâchée là tout de suite.
Voilà, tout de suite. Non, mais tu vois, par exemple, l'aspect commercial. Tu es en train
d'expliquer que
tu
as des petits indiens qui préparent toutes tes vidéos.
Voilà, exactement.
Wow. Non,
mais le premier truc, moi, que j'ai sorti, mais ça dépend de ta personnalité. Moi, le truc que je détestais le plus, c'était de discuter avec les sponsors. Je suis mais une quiche au niveau commercial, mais une catastrophe. C'est vraiment
c'est un métier,
pas mon truc.
C'est un métier. On a tous fait les mêmes choix à un moment, c'est de donner ça à d'autres gens.
Mes quatre premières années, en gros, j'ai refusé tous les sponsors. Ça m'allait jamais. C'était non, mais je vais pas faire ça, je suis pas un homme sandwich, je vais te faire foutre, machin. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai délégué très rapidement. Ouais. Et donc j'ai dit à Guillaume, bah écoute, moi, voilà, on peut t'aider si tu veux t'y remettre, mais finalement, pourquoi tu viendrais pas faire des vidéos avec moi ? Moi, j'ai toujours voulu que la chaîne soit collégiale. T'as un ego qui le permet, parce que ça, j'ai bien jaugé. Il y a des gens qui viendraient jamais sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Hein.
Ouais.
C'est une question d'ego. Moi, j'ai un ego qui me permet aussi de faire la place à quelqu'un. Machin.
C'est beau, ces égos qui coexistent.
Et c'était une expérience. C'est toujours une expérimentation, mais la sauce a l'air de prendre. Il y a eu des réactions au début. Mais je regarde pas Naotech pour voir Guillaume. Moi, je viens pour voir Jérôme. C'est quoi ce scandale? Tu sais, les gens n'aiment pas qu'on change leurs habitudes. Hein. Mais
après,
on peut
se mettre d'accord sur une ligne éditoriale, sur une façon de travailler, mine de rien, les gens, ils gardent ça, même si c'est plus toi.
Il y a un truc qui est très important, et je vais être très... Il y a un truc qui est très important quand tu travailles avec des gens, c'est d'avoir la même vision sur l'argent. La notion de l'argent. Parce que c'est comme ça que toutes les engueulades et tous les problèmes arrivent. Ouais. Et il faut en parler dès le départ, surtout quand il n'y en a pas. Parce que c'est quand il y en a de l'argent que les problèmes ouais. arrivent. Et si tu n'as pas mis les choses carrées au ouais. départ... Ouais, c'est le bordel.
Tu peux retenir, Eliox, pour tes prochains.
Non, mais moi aussi, je suis d'accord. J'ai eu une petite expérience aussi comme ça, donc je suis d'accord. Mais par contre, moi, ce que j'ai fait comme expérience, c'est que j'avais mis les choses à plat au début. Mm. Mais la personne est peut-être de bonne foi, mais comme c'est pas maintenant tout de suite sur le fait accompli, elle va te dire oui, t'inquiète pas, ouais. pas de souci. Mais quand ça arrive, là, c'est problématique.
Là, c'est les ennuis qui arrivent.
Tu penses que tu pars avec la confiance,
ouais, et en fait, non. T'apprends à écrire des choses, prendre des engagements,
ça, oui.
et surtout se méfier des gens qui vont te dire je ne fais pas ça pour l'argent.
Ouais,
c'est les premiers qui vont te demander de l'argent.
Je te confirme, c'était une personne
c'est
qui a
exactement
dit ça.
Ça. Les mecs qui disent non, mais je fais ça en bénévolat. Non, mais t'inquiète, on parlera de l'argent plus tard.
C'est ça, exactement.
Là, ça sent là aussi.
Non.
Il y a Dao qui me dit que je suis sûr parce que j'ai oublié de parler argent avec la régie automatique. Bon. Budget Gabin, je le paye en crypto.
Voilà.
Je réagis à un truc que je sais pas ce que ouais. je peux te dire tout à l'heure, mais on parlait tout à l'heure de crypto, achat crypto. Tu parlais d'une anecdote intéressante sur Amazon, sur le business model d'Amazon. Est-ce que tu peux nous la raconter?
Sur ce que c'est que le cash flow. En fait, les Amazon, on se dit, mais comment ils ont fait, c'est moins le cas maintenant, mais comment ils ont fait pour faire des prix bas et casser le marché? En gros, voilà. Ils ont fait des prix plus bas que tout le monde et on s'est tous mis à acheter à ça. C'est qu'en fait, Amazon fait très peu d'argent sur. Je parle pas d'Amazon Web et tout. Ça, c'est leur autre business qui leur apporte plus d'argent que la boutique. Mais sur la boutique elle-même, ils font pas d'argent sur la marge des produits.
Mais
ils font de l'argent sur ce qu'on appelle le cash flow.
Ouais.
C'est-à-dire que quand tu es un fabricant de produits, t'envoies tes produits, tu les mets sur Amazon. Amazon récolte l'argent des gens et paye ses fournisseurs à 30 jours.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Et pendant ces 30 jours, tu as des grosses machines chez Amazon qui vont faire plein de micro-placements de cet argent, le faire fructifier à la bourse. Ou dans des placements,
franchement, vraiment une question que je sais pas si c'était le cas pour vous aussi, mais c'est vraiment une question que je m'étais toujours posée, c'est comment ils font pour avoir des prix aussi bas, des livraisons gratos,
cash flow,
où est-ce qu'ils gagnent leur
argent? Les prix aussi bas, maintenant c'est plus trop
oui,
ça.
En fait, ça dépend quel secteur. Les secteurs qu'ils ont complètement écrasés, éclatés, maintenant ils font leur prix. Le prix Amazon devient un prix référent.
On est accro en quelque sorte à Amazon avec la SAV qui est quand même bien foutu machin, et puis maintenant.
Et maintenant, ils en profitent pour remonter tranquille.
Le cash flow, c'est le secret de ces sociétés-là. Hein.
C'est un truc qui paraît.
Après, il n'y a pas que Amazon. Hein. Tous les distributeurs font du cash flow. Hein.
C'est un truc qui paraît. Bon, déjà, pas,
forcément intuitif, parce que tu, voilà, tu sais que s'il investit son argent, ça peut ramener des sous sur des longues durées, etc. Mais tu as, genre, en tant que grand public, tu vois, tu n'as pas forcément cet automatisme de dire ils vont garder les sous de quelqu'un dans un coffre pendant 30 jours, ils vont le rentabiliser en réalité et faire des sous là-dessus et cumuler, ça fait des montants assez conséquents.
Ah, mais oui. Mais tu sais, vous avez déjà fait des prestats pour d'autres entreprises.
Oui.
Pourquoi ils nous payent à 60 jours, 90 jours, 120 jours, 240 jours pour certains?
Et puis pourquoi les virements...
Tu vois de qui je veux parler.
Et puis pourquoi les virements ne sont pas instantanés aussi?
Voilà. N'importe quelle entreprise va faire travailler l'argent qu'ils doivent à leurs fournisseurs. C'est un moyen de faire tourner ton entreprise aussi. Et tout le monde le fait.
Ouais.
Le problème, c'est quand t'es en bout de chaîne. Et que toi, t'as pas de fournisseur. Eh ouais.
C'est ça. Ou alors les prestats, mais bon, c'est pas très cool, quoi.
Ouais.
Et ouais, on subit. Mais alors, on propose de payer Gabin en point de chaîne.
Ouais.
Ça peut le faire. On va mettre en place ça, un petit...
Tu vas voir, il va lancer sa crypto tout seul pendant la nuit. Tu vas te retrouver ruiné.
Il y a une révolution.
Et n'empêche, ça ferait un super Black Mirror, tu sais. Le YouTuber qui a programmé des caméras et le truc commence à prendre le contrôle et devenir plus populaire que le YouTuber lui-même.
On va faire un docu-fiction...
Ça serait génial.
Sur ça.
Gabin Superstar.
Est-ce que, Eliox, on me demande si tu as en tête des gros projets? Alors, on va en parler un petit peu plus tard, mais on a notre voisin, ce cher Eliox, qui sort des trucs de ouf là. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des projets qui t'ont vraiment pris plus de temps que d'habitude?
Ouais, mais je suis quand même limitée, hein. Bah, parce qu'il faut produire, faut faire des vidéos, tout ça.
Dans tous les cas, t'inquiète pas qu'on est bien d'accord sur le fait qu'il est complètement fou et qu'on va pas tous se mettre à faire des tanks.
Des voitures.
On va pas tous créer des voitures, voilà. Mais est-ce que t'as eu de
temps en temps... En vrai, je sais pas comment il fait, lui, mais...
Faut pas chercher.
Il est dingue, mais...
Même sur la partie purement 3D électronique, est-ce que toi, dans ton historique YouTube, t'as commencé quand, en 2017?
17, ouais.
Est-ce que tu as eu certaines vidéos qui t'ont marqué plus que d'autres, que tu as trouvé particulièrement cool ou difficile, mais les deux?
Ouais, non, en général c'est cool parce que de toute façon tu apprends et puis t'apprends au fur et à mesure. Comme je le disais, j'apprends au fur et à mesure.
Peut-être certains où tu as galéré particulièrement, où tu étais particulièrement fier du coup de dire ah là c'était un gros morceau. Tu vois.
En fait, c'est pas tant sur le galérage du truc, si je peux dire, mais plus sur le côté j'ai trouvé une idée que j'ai pas vu ailleurs.
Ça me plaît plus,
tu vois. Même si l'idée est pas...
Par exemple,
le circuit imprimé sur du verre. Tu vois, ça c'est bête.
Qu'est-ce que c'est?
Eh ben, c'est quoi?
Pour nous pauvres mortels.
Si vous voulez le découvrir, allez voir la vidéo.
Mais en gros, un circuit imprimé, on sait ce que c'est. Ça va être une carte avec des pistes qui va... Les pistes vont relier les composants entre eux et ça va faire un truc. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire... Comme on est maker, on essaie de faire des trucs à la maison. On peut faire des circuits imprimés à la maison. Voilà, il y a des techniques. Mais pourquoi pas essayer de le rendre artistique? Et du coup, je me suis dit, on va faire... On le voit. C'est
trop stylé, ça rend trop bien.
C'est stylé, hein.
Mais ça rend bien.
J'ai limite envie d'en faire pour aucune utilité, mais juste pour de la déco.
T'imagines tout un ordinateur comme ça, toutes les cartes mères comme ça, ce serait magnifique.
Comment ça marche? Ici, c'est tout simple. L'application est tout simple, mais il fallait avoir l'idée. J'ai pris une découpeuse vinyle, j'ai découpé des pistes dans du cuivre autocollant et je l'ai collé sur du verre. Voilà, tout simplement.
Tout simplement, ça fonctionne.
Et ça fonctionne bien.
Ce qu'on en discutait hier, parce qu'on avait un tournage secret dont on ne peut pas vous parler. D'ailleurs, on a dormi 3 heures, c'est pour ça qu'on a des cernes. Toi aussi, je crois. mais on en discutait et je te disais que pour moi, vraiment la carte électronique, c'était vraiment le truc... industriel, quoi. C'est-à-dire que pour en faire une... Il faut aller sur... je sais que tu as des fournisseurs qui font ça en Chine.
Ouais.
Tu leur envoies ton plan. Alors, comment ça s'appelle déjà, des plans comme ça, là?
Là?
C'est un plan de carte électronique.
C'est un
plan,
c'est un schématique.
C'est ça. Et tu leur envoies ça et eux, ils te l'impriment.
Ouais.
Euh, question toute bête, ça coûte cher de faire ça ?
Mais pas du tout, en fait. Ça coûte rien du tout. Ici, pour faire, par exemple, ce que j'ai fait là, on en a pour... en général, c'est 5 $ les 5 ou 10. Et ensuite, c'est les frais de port. Si on est pressé, ça va coûter peut-être 20 $ de plus. Okay. Et si on n'est pas trop pressé...
Oui, donc 5 fois plus cher que la carte en elle-même.
Ouais, oui, voilà, exactement. Ouais. Les frais de port, quoi. Mais sinon, si t'es pas pressé et que tu peux l'avoir dans un mois et demi, okay, le tout, ça va te coûter 10 $ en vrai.
Et alors, tu me parlais d'une technique qui faisait qu'on avait parfois même pas besoin de faire ça. Même pas besoin d'une carte électronique, tu peux la faire en mode chez toi à la maison, DIY.
Ouais, si tu veux pas souder tout ça.
Ouais,
ouais, il existe des breadboards.
C'est quoi ce truc-là
En fait, c'est un truc en plastique avec plein de trous dedans, et on va pouvoir plugger, on va pouvoir mettre des fils dedans pour faire toutes les connexions, et en général on s'en sert pour faire des prototypes avant de commencer à faire vraiment la commande justement
en usine. Je t'avoue que pour moi c'est extrêmement mystérieux. Je vois juste un quadrillage avec des petits fils qui vont d'un endroit à un autre.
Ouais, c'est vrai.
Et des petits bouts de composants qui ressemblent à des trucs de téléphone d'ordi.
Ouais.
Concrètement, il se passe quoi ? C'est des signaux électriques qui se baladent, qui transmettent de l'information. Comment t'as appris ça, tu vois ? Là, c'est, pour moi, c'est de la magie noire.
Bah, écoute, je sais pas. En fait, je pense que moi, je maîtrise absolument pas le truc. Hein. Comme je te dis, je fais au fur et à mesure. Et mes connaissances, elles sont encore maintenant sur Internet. Et il m'arrive même de regarder mes propres vidéos pour me souvenir de comment j'avais fait le truc. Quoi. En fait, je regarde mes tutoriels.
Mes tutos à moi, c'est génial, ça. C'est super ça, concept.
Exactement. Mais non, en fait, on trouve un peu...
Faut quoi comme connaissance, tu vois, pour arriver à faire ce que toi, tu fais ?
En fait, faut pas de connaissance. Faut être curieux, soyez curieux. Mais non, si tu t'intéresses, que tu prends un peu le temps et que faut peut-être avoir un petit peu de logique, peut-être.
T'as des portes logiques par exemple ? Ça c'est un truc dont j'ai un souvenir lointain.
Ah, les portes logiques, c'est vrai que t'as des composants comme ça avec des portes logiques où tu vas envoyer un signal et puis en fonction du signal qui arrive à tel endroit, ça va faire certaines choses. Mais tu fais plus ça maintenant avec les cartes qui sont. Enfin, l'Arduino, le Raspberry Pi, tout ça, tu fais plus ça. C'est maintenant que en programmation, t'as plus vraiment de l'électronique pure, tu sais, où tu vas vraiment faire des trucs très logiques.
Tu pars vraiment du truc de base et t'es obligé construire ordis où si t'avais pas un fer à souder.
C'est trop compliqué. Ouais.
T'es pas obligé de. Parce que moi, je me souviens de mes cours avec les matrices de portes logiques, l'assembleur, etc.
Avec tes conditions là, si oui et oui, alors ça fait oui, c'est si ça, oui exactement. Non.
C'est des cours de logique en fait où tu.
Ouais,
ou à la
ça.
Fin, tu devais savoir si t'es vrai ou faux. Enfin bref. Oula, je suis désolé.
On sent que c'est pas des bons souvenirs.
Je vous ai envoyé à tous là des vibes de vos cours, je pense, pour ceux qui sont en info. Mais donc, pas de connaissances techniques particulières. Est-ce que t'as peut-être un. Ah, tiens, pour moi, je vais te demander pour moi.
Ouais.
C'est quoi le premier truc si je veux commencer à expérimenter, tu vois, peut-être une expérience simple, peut-être pas clignoter une LED non plus parce que il faut des défis un peu.
Ah, je sais pas trop, je pourrais te dire tiens, si tu veux vraiment démarrer, je vais pouvoir t'aiguiller sur un truc qui m'a personnellement aidé, mais sinon un projet cool.
Je vais te donner un exemple d'un truc que j'aimerais bien faire. C'est un concept vraiment, je sais pas si ça peut fonctionner. Ça mélange pas mal de choses. Et c'est pas que je fais souvent des trucs qui sont complètement virtuels où je développe un truc sur une application. Enfin, tu vois, y a rien qui se passe dans la vraie vie.
Ouais.
J'avais un concept. C'était, on parlait d'interaction Twitch en live. J'ai envie de faire des trucs avec ça. Il y a un potentiel de ouf. Est-ce que tu vois ce que c'est le Robot Master de DJI ?
Le Robot Master. Bouge
pas.
Attends, ouais, non.
J'arrive.
Ouais.
C'est celui avec les roues là.
Ouais. Tu vas voir, il est juste là. C'est ça. Alors là, il n'y a pas les roues.
Ah oui, c'est une pièce, ouais.
Exactement. J'avais fait une vidéo sur la chaîne de Amixem où en gros, il y avait plein de robots comme ça qui défendaient la Redbox. J'avais codé des petits. Alors à l'époque, il fallait le coder en Scratch. C'était assez pénible parce que bon, Scratch c'est génial pour apprendre, mais quand tu veux faire des mécaniques un petit peu complexes, ça commence à être vraiment chiant. Et du coup, j'avais fait une vidéo avec lui et donc j'avais acheté un petit Robot Master comme ça. Normalement, il y a un truc avec des roues en dessous, mais à l'époque, c'était un écosystème assez fermé, c'est-à-dire qu'il fallait passer par l'application, coder avec les petits blocs ou avec un proto Python éclaté au sol. Regardez comment il est trop mignon. Et on pouvait lui faire, vous voyez, il y avait une petite bande bleue, on peut le faire suivre des. Il y a de l'IA entre gros guillemets, c'est-à-dire que c'est des petits blocs qu'ils ont eux-mêmes pré-entraînés à l'avance. Et tu peux faire, voilà, tu peux lui faire suivre une petite ligne sur le sol qui va détecter automatiquement, le faire tirer sur des cibles sur des autres robots qui va détecter automatiquement. Avant, c'était hyper fermé, et maintenant, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert ce qu'on appelle le SDK, donc en gros, nous développeurs, on peut aller le trifouiller et trouver des trucs à con. Donc je me suis dit, potentiellement, pour mes lives, alors peut-être pas pour Underscore, parce que je pense que mes invités seront pas hyper contents de l'accueil que je leur réserve, mais sur mes lives perso, je me suis dit, ce serait rigolo qu'on lui donne un petit nom. Ça peut être un copain de Gabin. On lui met un petit nom et on le voit derrière. Et en gros, les gens, soit avec des subs, soit avec des points de chaîne, je sais pas exactement quoi, ouais, faut pas que ça arrive trop souvent, ouais. Mais ils peuvent l'actionner, tu vois. Et ils peuvent essayer de me tirer dessus. Alors, je me demandais si je pouvais peut-être arriver à faire un. Je sais pas si ça. Est-ce que ça vous fait marrer déjà? Parce que sinon, je vais même pas me lancer dans ce truc. On me propose Gaboom, ce qui est pas mal. Mais je me suis dit, ce qui serait. Plutôt que juste l'actionner, ce serait marrant que les gens puissent viser, tu vois.
C'est possible, ouais.
Genre, je me suis dit, peut-être faire un damier, tu vois, un peu comme un damier d'échecs, où on voit la vue, et eux, ils peuvent dire, essaye d'envoyer une bille en F2. Et moi, peut-être je vais trop loin.
Non, moi je voudrais avoir une espèce de main qui soit me caresse, soit me donne des baffes. Et la communauté pourrait voter les tendances, tu sais. Genre, c'est bien ce que tu. Des petites tapes, tu sais, en coup d'encouragement pendant ton live. Et puis si tu dis une connerie, pas un grand coup sur la tête, ce serait génial. Horrible, mais génial.
Hein, je pense qu'ils en
Alors, du coup, je vais essayer de bosser sur mon concept là. Et potentiellement, incessamment sous peu, vous pourrez en direct live. Essayer de me shooter, voilà, ça peut être mort. Gab 2, j'ai un doute sur Gab 2. Parce que...
Bah, Gab 1 et Gab 2,
oui,
bah,
c'est voilà, pas mal. J'avais compris. Hein.
Merci. Moi, je dis pas mal.
Merci pour la clarification, mais j'aimerais que. Imaginez, demain, il y a un Gab 1 Cinematic Universe, il faut qu'on ait un petit peu plus de marge, quoi, parce que sinon, tous nos personnages, ils s'appellent Gab 1,
Gab 3,
entre, Gab 100, ça va commencer à être...
Gab au carré.
Voilà, ça m'a fait penser à ça, mais je vois pas trop en quoi je peux mettre un Arduino dans la chaîne. J'en sais rien. Mais toi, arriver en tout cas déjà à mêler l'API de Twitch, donc le truc qui ouais. truc en dev qui permet de savoir quand est-ce qu'il se passe des choses en direct, ça se lit facilement avec un Arduino.
Alors ça, je peux pas te dire, mais je sais qu'il y a des gens qui ont fait ça, et même tu peux récupérer les commentaires, enfin le texte des gens pour en faire quelque chose. Donc ouais, il y a moyen de faire des choses. Il y a quelqu'un d'ailleurs que tu connais,
Cabri DIY,
exactement, ouais. Qui fait des choses pas mal. Et
comment
Cabri DIY, ouais. Qui bosse sur des trucs comme ça,
ouais.
Chaîne
ouais,
Twitch, ouais, ouais. À aller voir.
Je pense qu'il
et donc
ouais, bien,
potentiellement lié à Arduino et Twitch, ça te paraît
ouais,
jouable?
Ouais, complètement.
Alors, faut peut-être un module internet, Wi-Fi.
Je t'avoue, en plus, je fais pas de live, donc vraiment, je me suis pas du tout renseigné sur la techno du truc.
J'ai vu passer dans le chat que c'était réclamé.
Ah.
Donc, les gens attendent ta chaîne Twitch. Mais bon, potentiellement, là, faut que tu te fasses aider.
Là, il va falloir que je me clone déjà. Et, que...
c'est ça.
Et quand j'aurai réussi, je ferai, ouais.
Ah, on m'a dit de checker les frères Poulain. C'est vrai que j'y ai pas pensé plus tôt. Mais
ouais, c'est vrai qu'ils font des lives où d'ailleurs,
il y a
des trucs.
Genre, ouais. Peut-être qu'on pourrait les accueillir ici, d'ailleurs, si ça vous branche. Ça pourrait être sympa. Avant de passer, on peut passer à la dernière partie de ce live. Je me suis dit que j'allais vous faire une toute petite revue de presse des familles. Voilà, regardez un petit peu. Je sais pas si vous suivez l'actu tech ou si vraiment vous êtes.
Tous les matins.
Voilà. je demande à Jérôme, mais voilà. mais Trélix, tu regardes un œil de loin ou t'es en mode
ouais,
bunker
Ouais, non, de loin. Ça m'intéresse quand même.
En ce moment, il y a quand même un truc qui dure. Et Dieu sait que je pense qu'on a tous marre, c'est la pénurie de hardware. Je sais pas si vous avez récemment tenté d'acheter quoi que ce soit qui se rapproche d'un composant informatique.
Ouais, c'est un peu compliqué. Enfin,
ça n'existe plus, tout simplement, nulle part. Mais ouais, du coup, ça impacte, mine de rien, des marchés insoupçonnés. C'est-à-dire que, bon, il y a les consoles, ça on sait, il y a les cartes graphiques, les téléphones, même les voitures, en fait, ont des soucis d'approvisionnement. C'est quand même un truc de ouf. Si bien que tu commences à des grosses boîtes qui, on a vu avec Apple, etc., eux, ils ont pris leur indépendance et ils sont peinards. Moi, j'ai commandé un... Alors, oui et non, mais j'ai commandé un Mac Mini M1 il n'y a pas longtemps. voilà, il n'y a aucun souci, ouais. célébrer tranquille. Donc eux, ils ont cet avantage-là. Et je pense que ça donne des idées à d'autres entreprises de se dire, est-ce qu'on ne peut pas prendre nos distances? Et donc, il y avait notamment Google, je crois, qui voulait faire la même chose sur leur Pixel, si j'ai bien suivi, qui voulait essayer de faire leur puce eux aussi. Mais voilà, je ne sais pas quel futur ça présage, mais...
Ouais, Intel et Qualcomm sont en train de devenir les pestiférés, ça va être la grosse mode de faire sa puce soi-même. Ouais, on a appris ce matin, il y a Oppo aussi et Xiaomi qui veulent développer leur propre puce.
C'est marrant, alors est-ce qu'ils vont tous se rendre compte que c'est peut-être plus compliqué que ça parce qu'Apple, mais non, c'est mais pas leur première qu'ils font. Mais...
Il y a eu plusieurs phénomènes, il y a effectivement le confinement, où ils avaient prévu que 2020 serait une très mauvaise année. Mais pas de, comme nous on l'avait prévu. C'est une très mauvaise année, mais tout le monde s'est acheté de l'informatique parce qu'on se fait chier chez nous. Donc il y a eu vraiment un gros problème d'approvisionnement.
C'est une très mauvaise année en termes de stock, mais pas en termes d'attraction, quoi.
Et l'autre truc, c'est aussi la politique commerciale américaine sous Trump, qui a été extrêmement offensive, avec ils ont exterminé, on peut le dire, hein. Voilà, c'est de la diplomatie de cow-boy. Ah ouais. Voilà, il n'y a plus de gants.
C'est ciao.
ouais, c'est plus les petites négos polis, diplôme. Maintenant, c'est tiens, un gros coup de bourrin dans la gueule et puis je vais voir si tu te relèves.
Ils s'en sont relevés. Enfin, c'est quoi j'avais vu passer que potentiellement, il pourrait y avoir des arrangements, des choses qui pouvaient évoluer, non?
Ça, écoute, on va voir sous Biden, en tout cas, comment les choses, mais... on est à un point culminant de quelque chose qui était larvé depuis les années 70, la montée de la Chine, la montée et des États-Unis commerciales, qu'on peut dire sur le déclin, mais ça va, ils sont encore bien hauts. Forcément, il y a un moment, tu mets Godzilla, tu mets King Kong, au bout d'un moment, ils se tapent dessus, quoi, hein, et on en est là. Je sais pas ce qui adviendra à la fin.
Mais tout ce qui est puce, développement de puces en interne, voilà, si ça vous intéresse, ce métier-là, de faire du très 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 bas niveau, je pense qu'il y a de l'avenir, qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Toi, t'as pris des M1 dans ta boîte. Je sais qu'ici, petit à petit, je crois que c'est Ajax le premier qui a pris un Mac M1. On est arrivé, on a testé, on a fait. Pardon. C'est quoi ce truc là?
Ouais, Apple, quand tu penses que c'est leur entrée de gamme là, qu'ils ont sorti.
Non, mais surtout, à l'origine, le moment où tu t'achetais un truc Apple, mine de rien, tu payais le software, quoi. Tu payais le fait que t'étais aux petits oignons. Tu payais pas les specs techniques du tout. Vraiment pas du tout. Aujourd'hui, la question se pose vraiment entre les specs, etc. Ça devient un très bon move d'aller taper du Apple.
Et les gens qui disent oui, mais par exemple, il y aura les jeux vidéo. Attendez de voir ce qui se passe dans 2 ans, si les développeurs de jeux vont pas commencer à se mettre sur des plateformes. Ouais.
Mais là, c'est les deux centres influents, c'est
et,
ça qui
et,
est.
Et
qui
quand tu dis que le M1, c'est leur entrée de gamme, ça veut dire qu'ils ont quoi sous le coude, quoi. Nous, on n'a pas investi pour l'instant, on attend le M1X, le M2. Voilà, okay. Moi, j'attends la suite.
Ouais, moi je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Mais effectivement, ce que tu disais sur le gaming est intéressant parce que, mais de rien, c'est l'écosystème des développeurs, de la création des applis et le hardware sont intimement liés et s'entre-influencent. C'est-à-dire que certes, les gens vont sur une plateforme ou une autre suivant ce qui est disponible, donc les jeux, et sur Mac pour l'instant il y en a peu. Mais là, peut-être c'est aussi dans la strate d'Apple de se dire on va tellement tout défoncer là que demain ça va devenir vachement intéressant. Une fois qu'il y aura des Mac Mini M1 à 800 balles partout, ça va devenir vachement intéressant pour un développeur de jeux vidéo d'inclure ça dans son processus, quoi. Donc, comme tu dis, restons prudents. Potentiellement, le gaming sur Mac, c'est le futur. Ok, donc calmez-vous.
J'ai pas dit ça non plus. Parce que Apple peut être très con aussi, oui, et très buté, surtout sur certains trucs.
La deuxième actu que j'ai vu passer sur YouTube il y a peu, c'est une vidéo d'un certain monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Michael Reeves. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense que si vous voyez sa tête, si vous avez déjà vu une vidéo et que vous voyez sa tête, ça va vous venir tout de suite. Comment présenter ce mec? C'est un mix entre toi et moi, je pense. C'est-à-dire que tu vas voir. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire que c'est un mec qui a vraiment une formation, enfin, il a vraiment une casquette de dev, quoi. Yeah. Et en même temps, il est aussi très bricoleur, il sait faire de l'électronique.
Mais attends, c'est pas celui qui s'est fait un truc pour se faire couper les cheveux?
Je crois que c'est lui. Je suis pas sûr d'avoir aussi de vidéo, mais c'est probable. Là. Le titre,
petit robot de... Ouais. Non, si, ouais.
Le titre que tu donnes correspond bien au personnage. Ouais. Il a fait tellement de projets complètement débiles. Et là, son dernier truc, c'est qu'il a acheté le Spot, le robot de Boston Dynamics, que vous avez peut-être vu chez AMXM, par exemple, il y a un peu. Il a acheté ce Spot et il s'est dit, bah, plutôt que d'en faire... C'est quand même un monstre de technologie, alors vous pouvez deviner ce qu'il sait peut-être déjà. Mais plutôt que d'en faire quelque chose de parfaitement utile, finalement, avec ce bijou de technologie à $75,000, bon, je précise.
Ouais, quand même.
Il a fait un robot
qui pisse.
Bon, il est très content, mais il a fait un robot qui te sert de la bière.
Ah.
Comme tu dis, il pisse de la bière.
Ah, il pisse de la bière.
Avec de la reconnaissance faciale. Non,
c'est
non, de la reconnaissance de gobelet automatisé. c'est complètement dingue. C'est vraiment du génie. Ouais. Je vous invite à aller voir ça en vrai parce que c'est vraiment spécial. Et surtout, c'est, en fait, ça...
Bah en fait, non, c'est même pas lui.
Ah, c'était pas lui, ok.
Mais ouais, mais non, vraiment, c'est intéressant quand même.
C'est que des projets comme ça.
Bah, mais l'autre, il est pareil. Il te fait par exemple un panier de basket sur un mur qui va se déplacer et qui va s'adapter à ton lancer. Et donc, du coup, tu rates jamais tes lancers.
Oui, si, je l'ai vu passer.
Tu l'as vu passer aussi.
Il était vraiment stylé. Alors, pour ceux qui demandent le nom dans le chat, c'est Michael Reeves, avec un accent extrêmement stylé. Et
elle doit bien marcher sa chaîne quand même pour, pour acheter un robot à $75,000.
Et il est allé jusqu'à l'autre bout des États-Unis devant les locaux de Boston Dynamics juste pour faire pour pisser le robot devant leurs locaux, tu vois.
D'un point de vue strictement artistique, et je dirais que tant qu'il y a des trucs comme ça qui existent, on n'est pas foutu.
Voilà.
Tu vois, on vit une période très anxiogène par rapport à la technologie. Mais tant justement des gens comme vous, des gens comme lui et tout ça vont continuer à détourner tout ça pour faire des trucs qui paraissent débiles. Mais
c'est ça qui est fou.
C'est ça qui est beau, quoi.
On ne s'en rend pas compte, mais c'est le meilleur moyen d'intéresser des gens à des trucs vachement plus pointus qui, en fait, de façon sous-jacente... Alors lui, il ne rentre pas forcément dans le détail, mais quand même, il explique, voilà, j'ai codé tel truc, ça marche de telle façon. Il a la partie plus électronique, etc., impression 3D et tout, qui peut me manquer pour faire ce genre de choses. Mais du coup, c'est notamment ce mec qui
t'inspire un peu. Ouais.
Qui m'a inspiré et qui m'a fait regarder certaines de tes vidéos et qui m'a fait me dire, ça peut être intéressant comme compétence à développer. Mais une autre de ses vidéos, c'était, il avait fait un aspirateur, vous savez, les aspirateurs automatiques là, qui se mettent tout seuls. Et en fait, à chaque fois qu'il se prenait un mur ou un objet, il criait.
Oui, c'est vrai.
C'est génial.
Il faisait des cris humains. Ah, c'était une nouvelle apparition de Spot, ce robot-là. On l'avait vu chez AMXM, etc. Mais mine de rien, c'est un des premiers appareils grand public de ce type-là. Ça commence à devenir presque mainstream. J'ai vu aussi que l'armée française faisait des tests avec...
Oui, avec...
Et là, ça commence à faire peur. Alors, ils ont précisé dans l'article qu'il n'y avait pas d'armes pour l'instant. Mais là, l'épisode Black Mirror, je ne sais pas si vous voyez de quel je parle, en noir et blanc, là.
Et t'as vu la version chinoise qui est la plus rapide, là, où le truc, il court à je ne sais plus combien de kilomètres heure. Là, c'est le flip absolu, quoi.
Quelle angoisse. Ah non, vraiment, c'est vraiment le cran. Là, on a des magnifiques images. Alors, je pense pas que ce soit l'armée française, mais apparemment, l'armée française aussi est intéressée. Donc, à l'origine, Boston Dynamics disait, nous, on veut pas que ce soit un truc, on veut pas le vendre à l'armée. Voilà.
C'est pas un hasard si Google a lâché la marque, parce que forcément, de toute façon, la presse, c'est pas évident quand t'as un truc comme Boston Dynamics.
Une petite troisième reco de trucs à checker, c'est la dernière vidéo de Ajax, on en parlait tout à l'heure. Il a bossé 2 semaines comme un fou sur un projet qui est de transformer une Lamborghini en tank. Voilà, tout simplement. Donc voilà, allez voir ça parce que c'est en premier des tendances, c'est très facile à trouver. Donc allez voir ça parce que c'est tout simplement incroyable. Vous avez des petites recos pour nous, ou un appli, un site, une vidéo que vous avez vue qui vous a fait plaisir? Non? C'est pas obligé, c'est facultatif. Hein, mais...
Non, chaîne, non, pas spécialement. Mais
Ou un service, ou une appli, non.
Moi, j'ai plutôt envie d'encourager les gens à essayer de mettre les mains dans le cambouis, justement. Et de. Si vous voulez vous lancer dans l'électronique et que vous voulez voir un petit peu. Voilà.
C'est quoi le point d'entrée?
Le must-have à avoir vraiment pour démarrer, pour moi, c'est le Kickstarter d'Arduino, où on va avoir une boîte avec plein de composants, un bouquin avec 15 petits projets. Pour essayer de comprendre les fondamentaux du truc. Et on va pouvoir, voilà, y arriver avec 15 projets. Et c'est complètement accessible aux enfants. Donc, vous pouvez le faire en tant qu'adulte. Et si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les prendre avec vous.
Encore mieux, vous pouvez apprendre tous ensemble. C'est ça qui est
exactement.
Beau. Alors, toi, tu m'as dit la reco dont. Enfin, ta reco, c'est tout simplement ça. Ce que j'ai devant moi.
Ouais, mais j'ai envie de changer d'idée.
Ah non,
parce que tu vois, on a parlé de la panne des composants. On vient de vivre une année bizarre. Je ne sais pas si vous la sentez aussi, la tendance où la technologie, après des années d'émerveillement, on est aussi dans des années où on a un petit peu plus peur, Black Mirror, machin, etc. Et je crois qu'on ne va pas refuser la tech, elle est intégrée dans nos vies, on en a besoin, elle nous rend des services, mais peut-être apprendre à être heureux et à mieux utiliser ce qu'on a déjà. Oui. Et pas succomber au marketing qui nous fait toujours croire que notre bonheur est dans le prochain achat et que c'est ça qui va te permettre d'être bon en photo, avec un smartphone, en développement, que tu n'y arriveras pas si tu n'as pas le dernier truc. On sous-exploite. Et là, je rebondis sur ce que je t'avais dit. Moi, je redécouvre le confinement. J'ai toujours été un gros fan de l'iPad, même quand personne n'y croyait. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'iPad,
c'était
beaucoup de gens disaient ouais, c'est un truc pour regarder la télé, mais on ne créera jamais dessus. Et moi, je me souviens de mes collègues de bureau, parce que j'étais retourné en agence, qui soutaient de ma gueule, parce que j'avais les premiers stylets, tu sais, avec les embouts mous, là.
Ouais.
Et que je prenais mes notes en réunion avec ces stylets-là, et ils se foutaient de ma gueule, parce que j'y croyais que c'était un vrai objet pro, alors que ça ne l'était pas encore. Mais il y a une grosse vengeance en ce moment des tablettes et de l'iPad, et le confinement y est contribué. On a besoin de cette informatique légère, pas trop compliquée. T'ouvres pas 10 fenêtres sur un iPad, mais ça fait du bien de pas ouvrir 10 fenêtres.
Ouais, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un retour de la. On est passé de pas l'utilitarisme pur, mais vraiment les features, le nombre de logiciels que tu peux utiliser, le nombre de...
Processus, machin...
Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un retour à vraiment
à l'essentiel, un peu.
Un outil qui me sert.
Une simplification de... Ok, alors c'est super de faire plein de trucs, mais en fait, pour bosser bien, parfois, juste le fait d'être forcé d'avoir une fenêtre, tu vois, qui écrit des choses... C'est pas adapté à tout, mais mine de rien, toi tu sens que t'es plus productif par exemple sur un iPad?
Plus productif, je travaille différemment, quelque chose qui correspond plus à mon intellect qui
est bordélique,
des méthodes
on
plus informatiques, oui, mais voilà, l'informatique où il faut quand même avoir un certain ordre pour pas machin. Là, vu que tu peux plus foutre le bordel sur ton bureau. Je parle du bureau de ton ordi.
Ouais.
Vous connaissez tous hein, ces ordis où il y en a dans tous les sens et qui plantent au bout d'un moment parce que tu fais comme ça. Là, non, tu peux pas. Pour arriver à planter un iPad, faut se lever de bonne heure.
Il faut vraiment,
faut le vouloir.
Déterminé.
Ouais.
Écoutez, on arrive au terme de cette émission. C'était vraiment excellent. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Très bon.
N'hésitez pas surtout à les petits call to action. Tu sais que je suis obligé de le noter, hein. J'ai une petite ligne qui me dit...
N'oublie pas de promouvoir ta chaîne,
exactement.
Signé le SEO. Voilà.
Donc n'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch si vous appréciez ces moments de discussion tranquillou. C'était une émission un petit peu plus grand public, un petit peu plus chill, voilà. Vous inquiétez pas, pour ceux qui sont fans de tech pure et de sujets compliqués, il y en aura pléthore. On est ici de toute façon, comme vous le savez, tous les mercredis à 20h. Donc voilà, vous pouvez vous abonner également à la chaîne YouTube. Vous pouvez également aller voir notre sponsor N26 qui passe régulièrement dans le chat. Et puis voilà, où est-ce qu'on peut vous suivre? Sur YouTube, je pense.
Ouais, sur
peut-être
YouTube.
Sur Twitch. Alors, on m'a dit que c'était mieux d'envoyer sur la même plateforme, ok? C'est Hardis qui me donne des conseils de com. Mais vous pouvez aller voir du coup Jérôme qui fait des lives matinaux.
Ouais, tous les matins, on fait une émission tous les matins de la semaine qui s'appelle le Mug Nowtech. Donc, c'est une revue de presse de la tech. On prend des articles, puis on les commente. Ça part parfois complètement en sucette, hein, mais c'est rigolo. Ça dure 1h30. Là, on voit une autre émission qu'on a lancée. On a lancé le Twitch Achat.
Le shop.
Le Twitch Achat, on a fait l'interface la plus moche possible parce qu'on reprend tous les codes du téléachat et on s'en moque dans un live. Et ça, donc, Nowtech QG, c'est notre chaîne Twitch. On joue aussi un petit peu sur la chaîne Twitch parce que quand même...
Et donc, voilà, justement, on parlait de Guillaume.
Avec Guillaume qui est Maryse, et moi je suis Jean-Pierre Belmar au canard dans notre émission Le Shop Nowtech, tous les mercredis à 12h30. Et sinon, le mug, c'est tous les matins à 8h jusqu'à 9h30 à peu près.
Excellent. Et donc toi, Yox,
sur ta chaîne ? Moi, ce sera un désolé pour Hardis, qui moi, ce sera plutôt sur YouTube, du coup. Mais
est-ce que t'as un rythme, t'es comment?
Ah, le rythme c'est compliqué. J'essaye de voilà de poster le plus régulièrement possible, mais bon je voilà.
On peut s'attendre
c'est quand c'est prêt. Voilà.
Ah, c'est ça. nous on se retrouve. Bah, vous pouvez déjà aller voir aussi la vidéo qui est sortie il y a peu sur ma chaîne YouTube où on parle de bah là par exemple après je sais pas si vous avez quelque chose à faire, mais si vous avez rien à faire vous pouvez aller voir ça. On y parle de Shadow, des trucs assez bizarres qui s'y passent depuis quelques mois. Et de la tournure assez incroyable que prend l'entreprise. Nous, on se dit à très bientôt, à une prochaine. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et puis, très bonne soirée à vous. Salut.
Salut tout le monde.